Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'accueillir Nicolas de Roblot, qui lui, par contre, s'est perdu dans Watermal. En fait, il a voulu venir en train et il est descendu à la gare de Watermal plutôt qu'à la gare de Boisport. Donc, on est allé le chercher, on l'a retrouvé, le pauvre. Et donc, Nicolas, il est philosophe, il est également théologien et physicien. Donc, il est assez costaud. Il est responsable du département société au CTM de Grenoble. Et en fait, il mène toute une réflexion interdisciplinaire depuis longtemps sur la philosophie des sciences, en particulier liée à l'environnement. Alors, ce qui fait sa particularité également, c'est qu'il est pianiste. Et que donc, en termes de créativité, ce sera intéressant de voir comment il lit tout cela. Et puis, on a le plaisir aussi d'avoir Gaëtan d'Artevel. Gaëtan, lui, a étudié à Solvay et a créé une société qui s'appelle Green Loop. Qui est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des entreprises face aux défis de l'environnement. Il va nous dire exactement en quoi cela consiste tout de suite. Et donc avec Gaëtan et avec Nicolas, on va aborder aujourd'hui la question donc, de la créativité et en quoi la nature peut nous inspirer plus de créativité, disons, dans les entreprises. Et donc, comme vous le voyez, on a eu pendant les deux premières séances, on a eu la question d'une part de l'écologie industrielle et de l'économie de la fonctionnalité. Donc on restait là plus dans des approches entre guillemets liées à des techniques, si on peut dire. Aujourd'hui, on passe dans une autre dimension qui est plus celle donc de la créativité. Voilà, je passe tout de suite la parole à Gaëtan. Merci.
Merci. Alors voilà, pour ajouter, j'ai aussi étudié la gestion de l'environnement à l'ULB, donc c'est une maîtrise pour compléter mon diplôme. J'ai pas mal voyagé aussi en coopération et développement, et je suis aussi accordéoniste. Donc pour la créativité, et alors je voulais juste mentionner une petite anecdote, c'est que moi je travaille beaucoup la musique tzigane des pays de l'Est, donc je me rends souvent en Roumanie, Bulgarie, et... je suis dans un petit village où il y a pas mal de musiciens, un peu de tziganes, et on y va souvent en groupe. Et un jour, je me souviens, quelqu'un demandait à Marcel, qui est le violoniste principal du village, si vous voulez, « Mais pourquoi vous jouez tout le temps si vite ?» Et il a dit, « Mais c'est pas nous, c'est les rivières qui coulent super vite ici, parce que c'est montagneux. » Donc vous voyez, déjà là, il y a une inspiration de la nature. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui, ça me paraissait le plus simple, de vous parler de Green Loop, cette société que j'ai créée avec Gauthier Chapelle, mon collègue, et qui a pour but évidemment d'exploiter cette idée biomimétique, de la rendre praticable, de ne pas la laisser au rang des belles idées comme ça, mais plutôt essayer de la ramener vers le concret, vers la réalité. Ça, c'est le job de Green Loop. Et je vais faire ça en trois étapes qui correspondent à trois évolutions. Sachant qu'on a créé cette société en 2007 et donc on est toujours, si vous voulez, dans la démarche de chercher et d'appliquer ce qu'on trouve dans la réalité, corriger, rechercher, appliquer, rechercher. Donc on est vraiment dans un processus d'action-recherche. Alors, au départ, évidemment, on est très inspiré par Janine Benyus. Je ne sais pas si vous connaissez. On a fait traduire le livre grâce à Indigo en France. Et au départ, on a créé Green Loop et aussi Biométrie Europa, qui est une AISBL, dont la vocation est plus évidemment l'éducation et la sensibilisation et voilà, autour du biométrique, que Green Loop s'attache plus à des questions concrètes. Alors, première étape, il nous fallait exister. En 2007, exister. Et à l'époque, on est en pleine crise climatique, on en parle beaucoup en tout cas. Les médias aussi se concentrent vraiment sur le CO2, à tel point que parfois on a l'impression que développement durable se résume à réchauffement climatique. Si on en croit, les médias, il y a beaucoup de confusion. Donc, nous, ça nous semblait important d'exister aussi au niveau du biomimétisme, et on s'est dit, mais en fait, comment fait la nature pour séquestrer le CO2 ? Quels sont les moyens, quels sont les résultats, quelles sont les techniques. Et on a soumis un projet à la Commission européenne, sur lequel je reviendrai, c'est fort intéressant, qui s'appelle CO2 Solstock. Un projet de 3 ans qui nous donne une certaine légitimité, puisqu'on travaille avec 5 universités pour ce projet. Donc c'est un projet de précipitation des carbonates de calcium avec des bactéries, souvent en symbiose avec des végétaux, comme on va le voir plus tard. À côté de ça, on avait toute une expertise, on ne vient pas de nulle part évidemment, on vient d'une longue expérience dans le développement durable, on était formé au bilan carbone, et donc on a continué à proposer à des sociétés, des bilans carbone avec des plans d'action, si vous voulez. À travers ce travail, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et on avait un certain nombre de questions à la fin de cette première étape. La première question, ben évidemment, si on ne s'intéresse qu'au carbone, est-ce qu'on ne loupe pas des opportunités d'introduire des meilleures solutions ? Parce que le développement durable, donc what is SD, Sustainable Development, le développement durable, c'est certainement plus que juste simplement la question du carbone, il y a aussi la biodiversité, vous le savez mieux que moi. Et troisième question, on se disait, et ça c'est vraiment notre expérience de bilan carbone, on avait toujours affaire, si vous voulez, à un responsable environnement, jamais à la direction. Ce responsable environnement travaillait dans un budget fixe. Voilà, il avait un budget pour changer les lumières, pour éventuellement changer les fenêtres, ce genre de choses, mais il ne pouvait jamais monter à un niveau stratégique. Or, il nous semblait qu'aujourd'hui, même à l'époque en 2007, le développement durable, s'il n'est pas mis au niveau stratégique, eh bien, ça serait qu'un peu du cosmétique, de l'amélioration d'un système qui n'est de toute façon pas durable. Donc, la question principale qu'on s'est posée, c'est comment mettre la durabilité à un niveau stratégique. Moi, j'ai été assistant pendant un an et demi à l'ULB du professeur Paul Verdun en stratégie, en corporate stratégie. Donc, les idées sont venues assez rapidement, comment développer une nouvelle approche. Et donc, voilà cette deuxième étape qui commence, qui est quelle stratégie pour une transition écologique de nos organisations. Alors, vous avez déjà vu ces schémas. Ça, c'est souvent la définition qu'on voit dans les rapports annuels d'entreprise. Le développement durable, c'est la réunion des transferts économiques, sociaux, environnementaux. Je sais que c'est déjà passé, ce sera ici. Donc, je vais aller assez vite. Évidemment, c'est faux. Scientifiquement, l'économie n'est jamais en dehors de la planète. On est beaucoup plus dans un schéma comme celui-là. Vous avez la sphère économique qui travaille avec les hommes sur la planète Terre. Voilà. Alors, quand on se rend compte aussi, ceci est très important, et je commence aussi parce qu'on est souvent confronté avec des gens qui ont une conception du monde où tout est renversé. C'est l'économique qui entoure l'économique qui entoure éventuellement le social, et au milieu, il y a l'environnement. Donc, si l'économique ne va pas bien, ben, l'environnement passe à la trappe. On est dans le court-termisme, vous connaissez ça. C'est un peu ce qu'on observe actuellement. Alors, reste la question... Ben, qu'est-ce le développement durable ? Ici, c'est un travail qui a été réalisé par une série de chercheurs qui sont essentiellement basés en Suède et qui visaient à définir quelles étaient les limites à la stabilité de notre écosystème mondial pour continuer à fournir ses services alimentaires, épuration des eaux, oxygénation, etc., etc. Ils ont défini 10 limites et puis ils ont commencé à quantifier quels étaient les critères qui dépassaient et qui mettaient en danger la stabilité du système. Donc, tant que vous êtes dans le vert, c'est bon. Vous voyez ici, il y a 3 limites de dépasser : réchauffement climatique, le cycle de l'azote, beaucoup trop important, avec tout un effet d'eutrophisation dans les lacs et les rivières, et des pertes de biodiversité. Donc, il y a 3 limites qui sont dépassées sur 10, alors qu'il y en a 2 qui se prennent pour mesurer.
Tu peux mentionner les autres ?
Alors, les autres, ben oui, tout à fait. Donc, vous avez tout ce qui est ici, qui n'est pas quantifié encore, les aérosols atmosphériques. Vous avez la pollution chimique, donc tout ce qui n'est pas biodégradable et qui s'introduit dans les chaînes tropiques. L'acidification des océans. On a fait un travail, un collègue à nous a fait un travail, a présenté un papier récemment en Chine. La limite est dépassée aujourd'hui, notamment à cause du réchauffement climatique. Les océans deviennent acides, ce qui attaque tout ce qui est calcium, tout ce qui est calcaire dans les océans. Et donc, le phytoplancton, qui est un squelette en calcaire, est attaqué. C'est assez dramatique parce que c'est la base de la chaîne trophique dans les océans. Quand vous regardez le sommet de la chaîne trophique dans les océans, c'est par exemple les requins qui sont aujourd'hui pourchassés à des... ils sont complètement massacrés, notamment à cause de la soupe chinoise aux éperons, c'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça. C'est par million, sur 40 minutes, vous avez peut-être 20 000 requins qui y passent. C'est un véritable carnage et il n'y a aucune défense. C'est le maillon supérieur dans le sens où les requins... C'est vraiment l'animal qui permet, qui force le reste de la chaîne trophique à s'adapter et à devenir de plus en plus performant, notamment les phoques, etc. Qui sont très très agiles pour fuir les requins, tout ça est dû à une très longue évolution. Les requins sont ici depuis 400 000 ans. sur cette planète. Et donc, voilà, on est vraiment en danger ici d'un risque d'effondrement de l'ensemble de la chaîne tropique sur les océans. Alors, vous avez l'ozone stratosphérique, le site donc, de l'azote qui est dû aux emmurés, hein, azotés, évidemment, qui sont après lavés par les sols qui se retrouvent dans les rivières, les lacs, etc. Vous avez le site du phosphore, pareil, mais qui est mesuré. Il pourrait bien être déplacé aussi, celui-là. Vous avez l'utilisation d'eau douce. Et j'arrive pas à lire à manger. Les changements d'affectation des sols. Donc, par exemple, un changement d'affectation des sols, c'est la transformation d'une forêt primaire en pâturage pour l'exploitation animale. Donc, ça rend le système évidemment beaucoup plus complexe qu'un seul indicateur qui serait le CO2. Alors, on a commencé à introduire, pour faciliter la compréhension du développement durable, on a commencé à introduire un modèle qu'on appelle le Natural Step et qui définit, si vous voulez, 4 principes à ne pas franchir, à ne pas violer si on veut rester dans la durabilité. En définissant ces 4 principes, ce qu'ils font, c'est simplement définir une frontière à l'intérieur duquel toute la liberté et la créativité peut s'imposer. Alors, le premier principe, et donc c'est complètement renversé dans le sens où on ne dit pas « c'est durable de », mais on dit « ce n'est pas durable de augmenter les concentrations des substances qui sont extraites de la croûte terrestre et de les mettre ailleurs ». Donc là, on parle évidemment du pétrole, des métaux rares et ce genre de choses. Le deuxième principe que ce modèle définit, c'est d'augmenter les concentrations des substances qui sont produites par la société et qui ne sont pas biodégradables. Là, c'est par exemple tout le programme REACH, par exemple. Pardon. Les plastiques aussi, mais ça va être aussi tous les produits, les solvants chimiques qu'on peut utiliser et qui ne sont pas récupérés. Il y a une partie de l'image.
À mon avis, il doit y avoir un institut entre ton PC et. Ouais. Non, c'est pas une question. Non, c'est pas ça. C'est les réseaux.
C'est la résolution de ton écran.
Exactement. Elle est trop grande. Il faudrait sortir de ta présentation et essayer de résoudre le.
Ça gêne ou.
C'est supportable.
C'est la limite de la durabilité. Donc on va continuer un petit peu, ouais. Et puis si ça dérange, je vais changer. Ouais. Donc, troisième principe, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est le changement d'affectation des sols, c'est de détruire la biodiversité par des moyens physiques. Et là, viser par exemple toute l'exploitation, donc je le disais, de la production animalière, mais ça peut être aussi des carrières et ce genre de choses. Ce qui ne veut pas dire que le carrière n'est pas durable. Une carrière peut être durable, mais quand elle détruit la biodiversité pour s'installer sans après réparer, évidemment, quelque chose qui est durable. Et le quatrième principe, c'est un principe social. Et c'est de dire simplement, ce n'est pas durable que 20% de la population s'approprie 80% des ressources. Et donc, si je reviens d'ailleurs au slide précédent, parce que ça c'est un modèle théorique qui a été pensé par des scientifiques, si on revient à la réalité des faits, ben, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Bien, on s'aperçoit, oui, le premier principe de Natural Step est passé. Le deuxième, qui s'en souvient déjà ?
Accroître la concentration des substances.
Voilà. Donc là, par exemple, on a le cas de l'azote qui est dépassé. Le troisième principe, destruction. C'est bien dépassé également. Voilà, alors ce modèle, évidemment, ne s'intéresse qu'à l'équilibre des écosystèmes, donc le social n'y apparaît pas. Ce qui est d'ailleurs le grand avantage d'utiliser le Natural Step, qui n'est pas si compliqué à comprendre. Et vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça marche. Alors, on s'est aussi rendu compte, à travers notre travail, qu'on était face à des organisations. C'est un secret de personne. On est dans une période de changement et d'instabilité au niveau de l'environnement. Les prédictions sont extrêmement difficiles à faire. Et on est avec des organisations qui doivent évoluer. Pourtant, elles ont été conçues souvent de cette manière-là, qui est extrêmement efficace pour planifier évidemment des projets, pour faire descendre de l'information, peut-être moins pour faire remonter l'information. C'est marrant parce qu'on a montré ça à la DG Environnement, ils nous ont dit on dirait l'organigramme de la DG Environnement. Et évidemment, c'était des organisations qui étaient adaptées qui était adapté à un environnement avec des ressources naturelles infinies, ou perçues comme infinies, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, ou perçues comme infinies, et avec des flux d'informations assez faibles. Aujourd'hui, on est exactement dans une situation inverse, c'est-à-dire que l'environnement se réduit comme peau de chagrin, et il y a une foule d'informations qui arrivent de partout, et c'est comment prendre des décisions. Et ce genre d'organisation a des longs délais de réponse. Ce n'est pas pour ça qu'il faut entièrement tout jeter, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faudrait peut-être calquer quelque chose de beaucoup plus flexible et adaptatif sur ce genre de milieu. Et on verra en quoi, justement, l'observation de la nature peut nous aider à travailler ces structures. Alors, la question maintenant, on la pose de manière assez brute. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie suit-on? Soit on fait... Comme dit, et là je reprends Brongart de Cradle to Cradle, soit on travaille les coefficients, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer à la marge un système qui à la base ne fonctionne pas durablement, ou soit on se définit une vision d'un système qui est durable et on y va progressivement. On y va par essai-erreur, mais au moins on a un cap qui est défini sur lequel tout le monde est d'accord. Et ça vous pouvez le faire au niveau d'une organisation. Au niveau d'une société, c'est évidemment plus compliqué. Ça donne quoi? Alors, ça donne... Imaginez, vous êtes ici. L'axe horizontal est le temps. D'accord? Votre organisation est là. L'important, c'est de savoir où vous êtes. Donc, faire un diagnostic environnemental, mais aussi un diagnostic stratégique, l'environnement. L'environnement de marché, je veux dire. Ensuite, c'est très important dans cette démarche stratégique. Donc ça, c'est la grande conception stratégique que je vous montre là. C'est de définir, au sein de l'organisation, un concept, un modèle mental dans lequel les gens peuvent discuter et débattre. On propose le natural step. C'est pour ça que vous avez 4 numéros pour les 4 principes. Mais non, ça ne suffit pas. Le natural step ne dit pas quelle vision de l'organisation vous allez avoir. Il vous dit ce qui n'est pas durable. Donc, il s'agit de travailler... une vision partagée. C'est un travail qui est vraiment essentiel de dépasser le quotidien, le présent, pour se projeter dans l'avenir, et de le faire pour éviter les résistances au changement avec une approche positive. C'est-à-dire aussi de dire on va prendre ce qui a marché dans le passé. Ce qui a marché dans le passé, on va faire ce travail, on va faire énergie, on va le prendre avec nous. Il y a des techniques pour ça, c'est Positive Inquiry. Et ensuite, c'est un backcasting, c'est-à-dire que puisqu'on a une direction, on a une vision, on n'a plus besoin de débattre là-dessus, on peut expérimenter des actions qui vont dans la bonne direction et avoir un feedback sur ces actions pour pouvoir s'améliorer et faire des actions plus stratégiques. Mais ça ne suffit pas parce que, voilà, on montre des actions qui vont, des petites actions qui vont dans le bon sens globalement, mais ça ne suffit pas parce que, si on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos techniques, il reste un grand point d'interrogation qui nous sépare entre aujourd'hui et un monde durable. On est d'accord là-dessus. Il y a encore des techniques qui doivent être inventées, des nouveaux modes de management, ce genre de choses. Et ce qui est très important alors, c'est de pouvoir créer une organisation apprenante. Une organisation qui soit à la fois performante, mais qui puisse aussi s'adapter. Et ça aussi, on reviendra et on verra de quelle manière la nature peut nous aider à faire ça. Alors, autre point vraiment important pour nous au niveau stratégique, c'est de commencer par ce qui est facile et ce qui présente des résultats assez rapides pour motiver les gens, pour éviter le cynisme dans l'organisation. Ça, c'est une assez clé.
Voilà, Nicolas. Si Nicolas vient, tiens.
Bonjour Nicolas.
Oui, attends, alors, il y a ici, hein, donc ça va aller, tu vas pouvoir, attention, il y a...
Voilà, donc pour illustrer ça, je vais prendre un exemple, on est consultant chez Sodexo pour la durabilité. On a commencé par différentes petites missions, et puis maintenant on a décidé avec eux de travailler vraiment sur leur top 100 des produits vendus utilisés. Donc évidemment, si on arrive à faire une différence sur ce top 100 des produits vendus, vous imaginez l'impact, puisque c'est les produits les plus vendus. Donc là, par exemple, la pomme de terre, c'est un des premiers, je crois que c'est 1 million d'euros par an de pommes de terre. Et donc, ce qu'on a, on a travaillé avec eux, c'est de définir une vision de ce qui est de ce qui serait parfait, de ce qui serait l'idéal en termes, par exemple, de fruits et légumes. Voici un tableau schématique où vous voyez ici que sont tous les critères pour pouvoir agir, que Sodexo peut utiliser pour agir, donc la saisonnalité, la proximité, le type d'agriculture, la solidarité, la transformation, tout ça fait partie en fait de leur plan d'action. Et puis, on leur explique, ça c'est la description à chaque fois, quel est l'effet de cette action sur les différentes dimensions de la durabilité. Regardez, carbon footprint, environmental toxicity, biodiversity, on retrouve bien les trois principes. Évidemment, on a rajouté l'eau, parce que c'est très important en termes de l'utilisation de l'eau, très important en matière d'alimentation, et la santé et la nutrition. La solidarité, qui était le quatrième principe naturel 7, est ici un levier de décision. Et ensuite, évidemment, on a des actions qui sont suggérées, c'est-à-dire qu'on leur suggère les premières actions pour aller vers cette vision. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec eux, mais qui illustre qu'on peut, la démarche qu'on peut avoir. Voilà, on se passe des toutes... j'avais bien fait ça. Et donc, ça donne, par exemple, cet arbre de décision où vous avez un schéma de décision idéal qui partirait de la saisonnalité, de la proximité, de la diversité des produits, qui arriverait sur l'organique, parce que l'organique, on ne peut pas en faire 100%, pour le moment, il n'y a pas l'offre, elle n'est pas là, la demande dépasse l'offre. Et puis une route alternative si ce n'est pas disponible, et puis alors s'ils voudraient abandonner aussi dans leur démarche d'achat. Alors, les questions qui nous restent à la fin, c'est jamais la fin, parce qu'on continue évidemment à travailler en stratégie, mais les questions qui se posent à la fin de cette deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on peut mettre plus de biomimétisme dans cette démarche stratégique, en fait, parce que jusqu'à présent, j'en ai pas beaucoup parlé, finalement. Donc, comment la nature peut nous aider à définir une vision de nous-mêmes, de notre organisation, 100% compatible avec la biosphère. Et c'est aussi comme ça qu'on définit la durabilité chez nous, c'est être compatible avec le fonctionnement de la biosphère. Et deuxièmement, comment la nature peut nous aider à innover, tant du côté technique que du côté managérial et stratégique. Voilà, alors ici, moi, je ne vais pas vous présenter évidemment une théorie, je vais plutôt faire part de nos réflexions et des différents projets qu'on a en lien avec ce qu'on appelle les principes du vivant. Alors, pour bien comprendre comment la nature peut nous aider, il faut comprendre comment elle a évolué sur la planète Terre depuis 3,8 milliards d'années. Elle s'est accommodée des conditions initiales qu'il y avait sur cette planète. Et les conditions initiales sur cette planète, c'est que la vie est sujet à des limites et des frontières. Et c'est souvent en se frottant à ces limites, à ces frontières, qu'un saut d'innovation s'opère. Vous avez d'ailleurs un principe du vivant là. Alors, ici, pour illustrer ces limites et ces frontières, vous avez ces deux dias. Vous les connaissez ?
Non.
Vous imaginez ce que c'est, ça ? Par exemple ? Comment ?
La quantité d'eau totale.
La quantité d'eau tout court. Tout court. Si on roulait tous les océans, les mers, etc., ça donne ça comme volume. Donc c'est pour vous montrer aussi que c'est pas très très grand, en fait. Hein. Vu comme ça, c'est comme des plaques d'eau. On roulerait. Ouais. Et alors à droite, c'est pareil. C'est l'atmosphère, en fait, roulée en boule à pression constante. Et donc, pour montrer que c'est vraiment aussi des volumes limités et qu'il est possible de gravement perturber. Comment ? Alors, la Terre est fermée pour tout ce qui est matière. Tous les atomes qui sont ici ont toujours été ici. À part ceux qu'on peut revenir de la croûte terrestre, évidemment. Mais si on met ça d'un peu de côté, ces atomes tournent constamment. On a la preuve avec ces déchets dont on ne sait que faire. La vie, l'eau est un élément central sur Terre et la vie en a fait son solvant. Et plein de propriétés à l'eau, et ça on pourrait évidemment rentrer dans ces détails plus tard. La Terre offre, et là c'est un système ouvert, mais offre des énergies gratuites. La gravité, le soleil, et dérivé du soleil, le vent. Et enfin, on pourrait en trouver d'autres, mais dans les conditions initiales, mais celles-ci sont les principales. La Terre est soumise à un non-équilibre dynamique, c'est-à-dire que les systèmes se modifient, ont des ruptures. C'est par exemple les saisons. Les saisons, on peut les anticiper, le jour et la nuit. Ce sont des équilibres non dynamiques. Et puis, c'est parfois non prévisible, des incendies de forêt. Voilà, ça arrive. Et la vie, ça aussi, c'est accommodé de ça. On peut prendre ces fameuses... les graines, les épicéas qui peuvent redémarrer après un incendie de forêt, voilà, c'est vraiment toute une évolution pour continuer la trajectoire de la vie. Alors justement, la vie depuis 3,8 milliards d'années s'est accommodée et a fait le maximum de ses limites et des conditions initiales pour développer toute la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis 3,8 milliards d'années, il n'y a pas eu d'interruption dans la transmission de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez interpellant. Alors, maintenant qu'on a ça, ok, on va dire, la vie s'est vraiment bien accommodée de ses conditions initiales sur la planète. Elle a fait preuve d'imagination, enfin, je mets tout ça entre guillemets, évidemment, hein, et à 3,8 milliards d'années de recherche et développement, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, avec tout ça? Alors, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle les principes du vivant, ou ce que les écologues appellent les principes du vivant. Ce sont des principes qu'ils ont observés à travers le règne naturel, de la biodiversité, mais également des espèces éteintes, et qui révèlent de l'adaptation de la vie sur Terre. Ce sont des principes qu'on va retrouver, qui sont vrais à travers l'ensemble de ce règne. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ils sont mentionnés dans le bouquin de Jane Benyus comme une longue liste. On a commencé à essayer de les classer grâce à un travail de l'OCDE qui nous a mis sur la piste. Un travail de l'OCDE qui vise en fait à encourager les pays de l'OCDE à mettre en marche et en œuvre des politiques d'éco-innovation. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, en termes d'éco-innovation, on a vraiment à travers le temps une évolution. Une évolution qui va des produits vers les organisations et les institutions et qui va de la modification vers la véritable création. Alors, ça commence, on a commencé par contrôler la pollution, la sortie des usines, et puis on a inventé des productions plus propres, puis on a travaillé l'éco-efficience, et puis on arrive au cycle de vie des produits, on travaille l'ensemble de la chaîne, et puis ici, on est à cradle to cradle, les closed loop production, c'est-à-dire que les déchets sont réintégrés alors dans l'écologie industrielle, sont réintégrés dans la production, et puis enfin l'écologie industrielle. Et remarquez que les deux derniers sont basés sur le fonctionnement de la nature. Oui? Alors, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ceci, c'est ce sont exactement les mêmes axes. Ils disent, ici en dessous, c'est globalement des éco-innovations techniques. Ici, c'est du non-technique. C'est du non-technologique, c'est plutôt de l'organisationnel, évidemment. Ensuite, vous voyez dans le coin supérieur droit, il est mentionné que le plus haut potentiel de bénéfices environnementaux a lieu quand on combine le technologique et le non-technologique. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément d'éco-innovations qui sont, on le voit aussi dans les calls européens, où on s'intéresse qu'aux techniques, alors qu'on pourrait démultiplier l'impact du technique si on mettait à côté ou en plus des innovations managériales. Évidemment, on dit, oui, plus de potentiel, mais très difficile à coordonner. Ben oui, forcément, c'est difficile à coordonner si on a des organisations qui sont complètement top-down. Voilà, c'est ça qu'il faut, évidemment, qu'il faut changer. Alors, maintenant, je vous invite, par rapport à ça, à regarder ces fameux principes qu'on a classés en des principes qui pouvaient nous aider à
concevoir des innovations technologiques et d'autres qui pouvaient nous aider à concevoir des innovations non technologiques managériales. C'est une réflexion qu'on apporte ici, hein. Il n'y a pas de théorie derrière ça, c'est juste, comme je le disais tout à l'heure, un travail de recherche qu'on mène. Alors voilà les principes technologiques. La vie se construit de bas en haut avec des simples blocs de construction dont 96% est fait de 6 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Chaque fois que quelque chose est assemblé, il est prévu quelque chose pour le désassembler. Ça, c'est clé. Vous imaginez si on a ça dans nos équipes de concepteurs de projets, s'ils pouvaient avoir ça dès dans leur briefing de conception de projet, ça nous aiderait à faire des GSM qui pourraient récupérer.
Donc, vous avez déjà des protéines qui assemblent et d'autres qui les assemblent.
Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes ces innovations sont basées sur les énergies gratuites. Le solvant, c'est l'eau. Le solvant de la vie, c'est l'eau. Et ensuite, les trois suivants sont des principes qui sont à cheval entre le technologique et le non technologique. Optimiser plutôt que maximiser est vrai pour le technologique et est vrai pour le managérial. Quelques thèmes forment une grande diversité. Prenez l'avant-bras avec la main, par exemple. Et puis vous regardez la nageoire de la baleine à bosse, vous aurez le même, ça sera le même thème, la même configuration. Simplement, certaines choses seront bloquées, certaines choses seront un peu plus longues, plus larges, etc. Donc c'est quelques thèmes, mais qu'on tire, qu'on tord, voilà, qui donne cette grande diversité. Évidemment, la forme est là pour soutenir une fonction et pas l'inverse. Prenons l'exemple des atomes. L'exemple des atomes. Donc voilà, la vie, tout ce qui est coloré, ici sur le tableau, donc coloré plus foncé, c'est vraiment des éléments qui sont utilisés en grande quantité ou en quantité moyenne par la vie, et puis le reste, c'est des oligo-éléments, on va dire. Des choses qui sont extrêmement importantes dans les molécules, mais qui apparaissent de manière assez rare, mais qui font toute la différence, évidemment. Pour garder un GSM, vous avez la moitié du tableau de Mendeleïev qui est dans le GSM. Et en plus, on ne peut même pas récupérer la matière, les éléments. Donc là, ce genre de conception, si on pouvait les enseigner à un niveau technique, vous auriez des concepteurs qui arriveraient dans des boîtes avec cette idée-là, en disant, oui, mais hey, on ne va pas prendre n'importe quel élément, essayons de travailler avec les éléments de la vie pour pouvoir après les récupérer ou le réintroduire dans les flux de la biosphère. Bon, voilà, ça c'est juste un exemple. On pourrait développer chacun, on n'a pas l'occasion. On pourra le faire après en plus. Voilà. Par rapport aux technologies, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment on peut utiliser les normes de biodiversité et les normes d'intelligence dans le vivant, puisque chaque espèce a en fait développé ses stratégies technologiques et non technologiques, ses coopérations, chacune indépendamment des autres d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça justement pour baser nos objets plus sur ces principes-là et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus durables. Je vais prendre l'exemple du projet dont j'ai parlé tout à l'heure, CO2 Solstock, de séquestration du CO2 par des bactéries. Et donc, on s'est vraiment posé la question, on a biologisé la question. Donc, on a trop de CO2, qu'est-ce qu'on fait? On dit, comment la nature fait pour séquestrer CO2? Alors, dans le cas du CO2, ça fonctionne comment? Ben, vous avez la photosynthèse. Et au niveau du calcaire, vous avez les coquilles des mollusques. Vous avez le plancton, hein, ce que je racontais tout à l'heure, le plancton qui était attaqué par l'acidité des océans. Mais voilà un squelette de plancton. Et le travail des bactéries qui est capable de séquestrer du CO2 en symbiose avec des arbres et des champignons. Ça donne ceci. Donc ceci, je ne sais pas si c'est très visible. Là, vous avez un calcite. Ceci est une couche calcaire qui est produite par un arbre qu'on appelle l'iroko, la famille de l'iroko. Et au sein des racines, il y a une symbiose avec des champignons et des bactéries qui permet à cet arbre de séquestrer un tiers de plus de CO2 que n'importe quel arbre le fait avec la photosynthèse. Donc lui, il fait de la photosynthèse et en plus, grâce à cette symbiose bactérienne, il arrive à former cette dalle calcaire
que les anciens en Afrique d'ailleurs utilisaient pour amender les champs. C'était un savoir qu'on transmettait de manière orale avant que toute l'industrie des engrais arrive aussi en Afrique. Voilà, c'est une tradition qui s'est un peu perdue et qui aurait moyen de remettre en cours ou de maximiser ces stratégies-là. Et les bactéries tout seules sont capables également de séquestrer du CO2, puisque là, on a quasiment les plus vieux, les plus vieilles colonies bactériennes, ces stromatolites, qui ont permis, avec les algues bleues, d'épurer l'atmosphère du CO2 il y a 4 milliards d'années, il y a 3,8 milliards d'années. Donc, ceci existe encore. Donc, évidemment, on a étudié ça, il y a des tas de projets qui suivent, mais simplement pour vous illustrer qu'il y a différentes techniques, il y a des biologistes derrière qui ont étudié ces questions à fond, et que le biomimétisme, à un moment donné, c'est la rencontre des gens qui doivent concevoir des produits et des biologistes qui ont travaillé ces questions et qui peuvent amener vraiment des réponses. Le biomimétisme, c'est un dialogue, de toute façon.
Juste une belle question. Quelle est l'importance de cette séquestration du carbone? Avouez que je ne comprends pas bien, en fait.
C'est volume.
Pas seulement en volume, mais c'est dans le cycle. Pourquoi est-ce qu'il est important de séquestrer le carbone, en gros? Je ne sais pas où alors.
Ah, mais là, parce que. Bah, vas-y, c'est toi qui travailles le plus sur cette question.
En fait, ici, on est vraiment en réponse au changement climatique. On a mis, en gros, si on regarde la circulation du carbone autour de la Terre, il y a le réservoir atmosphérique, il y a tout ce qui est dans l'eau, et puis il y a tout ce qui est dans les sols, qui était sous forme de combustible fossile et de roches calcaires. Et les roches calcaires, c'est énorme. C'est des falaises de craie, qu'elles soient à Doubs ou ailleurs, ou au Cap Blanc-Nez. Voilà. Et en sortant, en brûlant les combustibles fossiles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment
libéré.
On a libéré d'un réservoir et on l'a mis dans l'autre. Et maintenant, il faut ressortir du réservoir atmosphérique et marin, d'ailleurs, et c'est marin qui fait la signification, et le remettre sous une forme solide. Et ça, c'est la proposition de ce projet.
D'accord, c'est ça.
Remettre en combinant avec du calcium, en refaire du calcaire.
Ou alors, on laisse les choses aller et on voit comment la Terre se transforme. Mais ça risque d'être un état qui est moins favorable pour la vie sur Terre.
C'est ça. Voilà, c'est ça.
Et c'est ce changement qui est extrêmement rapide et qui ne laisse pas le temps à la vie à s'adapter. Exemple, l'acidification des océans, là, c'est vraiment très, très marqué. Ou ouais, okay. Le plancton, il est fait en calcaire, il fait acide. Voilà. Maintenant, je vais aborder les parties non technologiques. Une série de principes. Voilà. Ils sont là. Vous voyez que j'ai mis 3 petits points. Il y en a pas mal et il faut vraiment les travailler. Il faut les travailler personnellement, il faut les travailler dans l'organisation. On n'est vraiment pas au bout du travail. Je vais prendre quelques exemples et essayer de les illustrer. Pardon ? Oui, vous voulez les lire ? Mais parce qu'on va traiter tout cela.
Oui.
Donc si vous en lisez, lisez cela.
Ben, on y reviendra alors après, je pense que c'est ça.
Oui, on peut revenir, parce que ça peut faire l'objet de chaudes discussions, en fait. Ouais, comment travailler ça au niveau de l'organisation. Ouais. Donc, la première chose, tu vas trouver ça. La première chose, c'est que, bon, dans la nature, il n'y a personne qui se concerte pour avoir un objectif commun. Tout émerge, évidemment. Mais chaque espèce, chaque individu a son objectif qui est de rester en vie et de se reproduire. Et c'est la panarchie de ces objectifs, parce que chacun a la même chose, qui crée une intention commune. Et quand vous avez une intention commune, c'est facile de collaborer, parce que vous n'avez pas besoin de discuter. Vous voyez ? Donc votre vision des choses, c'est de rester en vie et de se reproduire. Si à côté, l'espèce voisine, c'est pareil, et que vous trouvez un truc pour vous soutenir l'un l'autre, vous passez en collaboration. On reviendra sur cette chose-là. Et donc, c'est une des choses qui est très importante si vous voulez avoir une intention commune dans une organisation, c'est de travailler votre vision. Voilà. Une jolie petite image. On ne voit pas. Voilà, c'est stay alive and reproduce as a panarchy of common goal. Panarchy, c'est quand des systèmes s'emboîtent. Si vous voulez penser à hiérarchie, mais c'est dans les systèmes. Donc, nous, par exemple, en tant qu'être humain, on est une panarchie de systèmes. Des cellules vivantes jusqu'à l'organe, jusqu'à l'être, ça c'est une panarchie de 3 systèmes, par exemple.
Donc, tous les sous-systèmes qui s'emboîtent ont un objectif commun. C'est ça.
On travaille sur celui-là, oui. Voilà. Mais c'est une intention qui émerge. C'est,
c'est une intention commune qui émerge de buts individuels, mais qui sont les mêmes. Et la difficulté chez l'être humain, c'est que, évidemment, avec notre cerveau super développé, on a tous des intentions qui sont fort différentes. Bon, enfin, elles sont plus proches, mais je veux dire, la conscience de l'être humain a plusieurs couches, évidemment. Bon, dans le monde animal, c'est essentiellement rester en vie et se reproduire. Alors, on peut commencer à discuter ces questions-là, mais je veux dire, chez l'homme, c'est quand même vachement plus compliqué. Comment ?
C'est de ça dont on s'est parlé de
vous. Alors, juste un petit exemple, justement, pour travailler ça en organisation. Pour le moment, on a une mission au Seria. Donc, vous voyez, ça, c'est le campus du Seria. Pas une colonne photo, mais j'ai pris leur site.
Et le Seria, c'est quoi ?
Alors, le Seria, donc, c'est les écoles de restauration et d'hôtellerie à Bruxelles, qui ont été créées dans les années 50-60. Et c'est un superbe campus. Vraiment superbe campus. Donc, et vous avez la haute école du Ciel de Brouquer également. Et donc, c'est tout ça. Hein. C'est tout ce vert là, et c'est tous ces bâtiments. C'est des milliers d'élèves, des centaines de professeurs. Nous, on travaille juste avec les parties qui concernent l'alimentaire, c'est-à-dire les nutritionnistes d'un côté. À l'autre bout, vous avez Redouté Pays-Faire qui fait du maraîchage et de l'agriculture. Et au milieu, vous avez toutes les écoles de restauration, etc. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'introduire la durabilité au niveau stratégique. Donc, ça veut dire quoi ? Dans leur mode de fonctionnement, entre elles, parce qu'elles ont des opportunités. Pour le moment, elles sont toutes individualisées. Donc, elles sont complètement atomisées. Vous vous rappelez la hiérarchie tout à l'heure ? Complètement atomisées. Et on doit aussi voir stratégiquement de quelle manière introduire ça dans les informations véhiculées dans les cours. Mais évidemment, vous avez un contexte ici de professeur qui reçoit son budget chaque année depuis 20 ans, qui n'y a pas de direction tout en haut depuis 20 ans. Ils ont pris des habitudes. Il y a une résistance au changement qui est énorme. Si à un moment donné, vous ne travaillez pas l'intention commune, ça ne va jamais aller. Et pour travailler l'intention commune, il faut que chacun dépose sa vision des choses sur la table et que les visions s'enrichissent mutuellement. Alors, autre principe, tous ces principes sont liés, hein, on peut les travailler de cette façon, c'est apprendre et s'adapter continuellement grâce au rôle des antennes, des signaux et du feedback. Alors, vous voyez ici un papillon de nuit qui a des superbes antennes, puisqu'il peut capter des phéromones de femelles à plus de 10 km. Wow. Oui, mais c'est... J'aimerais bien que je me mette en contact avec le biologiste. Mais c'est une question de survie. Ça veut dire que des femelles, il n'y en a pas beaucoup s'il a développé des antennes pareilles. Survie et se reproduire, hein, les deux choses très importantes. Alors, j'ai mis. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, c'était une représentation d'une cuisine de Sodexo. Donc, comme je l'avais dit, on est consultant chez Sodexo. Quand on est arrivé là-bas, Sodexo perdait des marchés. Perdait des marchés surtout sur le segment scolaire, où des nouveaux cahiers des charges commençaient à arriver demandant plus de durabilité. Des 10-15% de bio, du local, etc. Et ils ne savaient pas trop bien comment s'y prendre. Et ils ont perdu énormément de marchés face à des petits concurrents qui venaient d'Otigny, même un petit traiteur qui a commencé à beaucoup grossir, mais qui avait, lui, une vision très précise d'où il voulait aller en durabilité, en fait. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Sodexo n'avait pas mis ses antennes aux bons endroits pour sa survie. Ils avaient mis leurs antennes ailleurs, mais pas là. D'où l'importance de savoir où on va, mais où on est aussi aujourd'hui avec ce système d'antennes. Quand on a fait l'étude d'un site de restauration de Sodexo au niveau du bilan carbone, ils ont été complètement hallucinés de voir des résultats. Parce que jusqu'à présent, ils travaillaient surtout sur les gobelets, l'énergie dans la cuisine, etc. Et de voir que leur matière première, c'est-à-dire la nourriture, la façon dont ils s'approvisionnaient, constituait le plus gros impact, mais de très loin sur le reste, ça a été un véritable choc. Les antennes n'étaient pas du tout branchées au bon endroit dans le cadre de la société. Maintenant, ils ont fait énormément de progrès, hein. Je ne voudrais pas donner une mauvaise image, hein. Mais voilà, c'est une progression. Alors justement, comment est-ce qu'on lie ce besoin de créer une intention commune et cette nécessité de savoir exactement où on est, ce que Peter Senge, pour certains qui connaissent, Peter Senge appelle « commitment to the truth ». Si vous avez une vision, ça peut vous tirer vers la vision. Mais vous avez souvent la résistance au changement qui vous maintient vers l'arrière. C'est une tension émotionnelle. Et ce qui est très important pour surpasser ça, c'est justement ce travail de commitment to the truth avec ses antennes, ses feedbacks et ses signaux pour savoir et pour partager comment est-ce que moi je vois la réalité, mais comment est-ce que toi tu la vois. Et est-ce que nos deux vues de la réalité ne peuvent pas s'enrichir parce qu'on ne travaille que par modèles mentaux pour voir la réalité. On est toujours à côté de la plaque en fait, ou plus ou moins dans le bon. Mais si on s'enrichit nos modèles, non seulement on apprend des choses, mais en plus on se rassure vis-à-vis de l'autre, parce qu'on va commencer à avoir la même conception du monde ensemble, et ça sera beaucoup plus facile alors de se projeter dans le futur et de développer une vision commune. Voilà comment vous articulez l'intention commune et les signaux. Alors, autre principe du vivant qui est très important en organisation où on voit énormément de compétition, et parfois qui coûte, parce que la compétition coûte au niveau de l'énergie, le principe dit la nature est compétitive, mais dans un système coopératif, si vous voulez. Donc en anglais, nature competes within a cooperative framework. Regardez ici, c'est les tourneaux sansonnets. Il écarte les ailes, il est au printemps, au moment de la reproduction, il a un comportement ultra compétitif, il chante à fond, c'est son arme. Notez que c'est pas très violent. Hein. La veille de l'hiver, il change de comportement, il passe en mode collaboratif. Pourquoi ? Parce que son objectif essentiel, survivre, commence à être en jeu. Et que c'est beaucoup plus malin de sa part de passer en mode collaboratif, dans le sens où il faut chercher de la nourriture. Si chacun en fait chacun pour soi, ben, peut-être j'aurai de la chance, je vais trouver. Mais si j'en ai pas, ben, j'aurai rien. Et alors j'ai besoin de traverser l'hiver avec une petite couche de graisse suffisante. Si on travaille ensemble, non seulement on se partage le butin, mais en plus de cette façon-là, il se protège contre les prédateurs. C'est-à-dire que vous avez déjà vu ça, c'est le vol des tourneaux. C'est impossible à attraper un tourneau. Les ailes peuvent rentrer, hop, là. C'est un flux incroyable. Et donc, ils ont acquis vraiment une technique de coopération à ce niveau-là. Mais donc, c'est très très important. C'est quand votre survie commence à être en jeu, vous passez en mode collaboratif. Ça ne veut pas dire que la compétition est mauvaise ou quoi. La compétition, c'est l'émulation. Il y a des choses excellentes là-dedans. Mais quand elle est coûteuse pour l'objectif final, c'est mieux de passer en mode collaboratif. Alors, on était à la Poste il y a quelques années. La Poste nous a demandé de faire une analyse du cycle de vie du papier d'une part et de le comparer à l'analyse de vie de l'électronique. Puisqu'à l'époque, pour les direct marketing, ils vivent beaucoup de ça, en fait, des direct marketing des sociétés, eh bien, ils subissaient la concurrence de. Enfin, ils subissent toujours d'ailleurs la concurrence de l'électronique. Les direct mail par électronique. Et donc, ils ont demandé, ouais, donc, voilà, faites-nous un papier, une analyse du cycle de vie, montrant que le papier, c'est moins impactif que le. Enfin, c'était presque ça, hein, je veux dire. Alors, on a dit, ouais, non, ça va pas être possible, bon, parce que. Déjà, scientifiquement, on peut tourner ça dans tous les sens, et effectivement, on peut rendre le papier moins impactant, l'électronique et faire. Mais en plus, on leur a dit, vous avez une opportunité, au contraire, de ne pas jouer la compétition, mais de jouer la collaboration avec vos clients. Apprenez à vos clients de direct mail à devenir moins impactants à travers l'ensemble du cycle de vie de fabrication d'un direct marketing mail. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, vous voyez, les différentes étapes, développer sa stratégie, construire la database, produire le mail, la description du mail, et puis gérer les réponses, etc. Et on a développé toute une série de solutions que les clients de la Poste pouvaient adopter pour diminuer l'impact. Résultat des courses, ça donne d'ailleurs un petit logiciel que vous voyez ici, il y a deux fenêtres. Une fenêtre où vous rentrez les données, vous avez des choix d'options qui sont donnés, et puis vous avez ici les résultats. Alors, eh bien, le résultat, c'est que ça fidélise les clients, évidemment, puisque la Poste arrive en voulant aider et coopérer avec le client pour qu'il devienne plus durable. Et c'est aussi dans l'avantage de la Poste qui aussi devient plus durable et aussi fidélise un client, si vous voulez. Donc là, vous avez un réflexe qui a été compétitif et on l'a tourné en collaboration. Parce que, voilà. Alors, Voilà, je vais presque m'arrêter encore deux slides, que j'aimerais bien, celui-là je l'aime bien, c'est la vie se construit de bas en haut. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'organisations qui soient apprenantes face à cet environnement complètement changeant pour s'adapter. Vous n'aurez pas d'organisation apprenante si vous n'avez pas d'individu apprenant. Et puis d'équipe apprenante, et puis c'est dans ce sens-là que ça va. L'exemple du corps humain, évidemment, pour illustrer ça, et ça donne des principes de collaboration. C'est illustré également par ce principe, il y a une certaine redondance sur ce principe. La vie fait « makes the most of everything », utilise un maximum tout ce qui est disponible. Dans les organisations, on a beaucoup de gens qui sont là, soumis à des règles et des recommandations, et qui en fait s'ennuient, pourraient donner le maximum. J'ai cette petite anecdote d'une personne qui a travaillé 40 ans comme technicien dans une société de fabrication de montres. Et au moment de son départ, on a fait un petit ring dans la société, on lui a dit « merci beaucoup, vraiment, vous avez été super, 40 ans, c'est vraiment génial ». Il a dit « oui, mais vous avez que mes mains. Si vous m'aviez demandé, j'aurais vraiment donné beaucoup plus avec ma tête ». Mais il était soumis dans une petite boîte avec des règles. Voilà. Donc, vraiment, il n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Alors, je vais un peu m'arrêter là-dessus, mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Life innovates with mistakes and experimentation. Oui, la nature n'est pas parfaite. La nature fait des erreurs, mais elle apprend de ses erreurs aussi. Il y a des feedbacks. Aujourd'hui, on est dans un monde de la société où on n'ose plus faire des erreurs, on n'ose plus prendre des risques. Ce qu'il faut dans les organisations, c'est créer des espaces où on puisse expérimenter des nouvelles stratégies, mais avec un risque qui est travaillé au minimum pour pouvoir apprendre et après redévelopper stratégiquement des solutions. Et ça, c'est vraiment clé, que les gens reprennent confiance dans l'expérimentation et dans le droit de faire des erreurs, du moment qu'on puisse avoir un système où on apprend ses erreurs. Donc, par exemple, au CERIA, je vous ai dit, au CERIA, on va travailler avec eux la vision de l'alimentation durable. Donc, on rassemble différentes personnes, elles livrent leur vision des choses, on travaille ça avec eux jusqu'au moment où il y a une image qui se forme et une vision qui se forme et qui est très claire pour tout le monde. Et ce faisant, on organise aussi toute une série d'expérimentations avec des chefs durables qui viennent parler aux professeurs, qui viennent essayer des nouveaux légumes, enfin, des nouvelles méthodes, etc. Où on expérimente ça avec les professeurs pour qu'ils sentent aussi les choses. Et qui puisse faire des erreurs et aussi s'approprier le sujet. Donc on crée des lieux d'expérimentation. Ça, c'est vraiment clé pour la durabilité. Dernier principe, c'est la collaboration le long de la chaîne de valeur. Gauthier, vous avez parlé de cet exemple. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui sont là.
Pour la plupart, oui.
Pour la plupart.
Ça vaut la peine de le répéter parce qu'il est important.
Alors Gauthier, vas-y.
Ouais, c'est mon histoire préférée. Donc ça, c'est la symbiose arbre-champignon qui est bien connue. Donc c'est de la faire rapide. Donc les champignons ne savent pas, eux ne font pas de photosynthèse. Donc eux, ils ont besoin des arbres pour acquérir leur sucre. Et en échange, eux récoltent l'eau et les sels minéraux en démultipliant le volume racinaire des racines d'un facteur 10 à un facteur 100. Et c'est donc des échanges constants. Ça, c'est une histoire qu'on connaît depuis plus d'un siècle. Ce qu'on a montré plus récemment, c'est que les champignons avaient inventé les allocations familiales, si vous vous souvenez, parce que le même réseau de champignons va des grands arbres qui sont exposés en pleine lumière aux petits arbres et transfère les excès de sucre des grands arbres vers les petits arbres. Donc les petits arbres ne sont pas des petits individus en full compétition vers la lumière, en fait ils sont nourris par les grands. Et en plus on a montré aussi qu'ils avaient inventé la sécurité sociale, puisque le même réseau de champignons peut être entre des arbres d'espèces différentes. Et à tout moment, certains arbres vont fonctionner mieux que d'autres et vont transférer leurs excès vers ceux qui fonctionnent moins bien. Et puis, deux mois après, ça va être l'inverse parce que les conditions météo ont changé, etc. Et ça, c'est logique en fait, parce que ça permet à chaque arbre de contribuer au maintien de toute la forêt dont il a besoin pour garder sa qualité de sol, etc. Pour le champignon, c'est encore plus logique parce que lui, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis surtout, la dernière chose que je voudrais dire sur cet exemple, c'est que ça se fait sans ministre. C'est de l'émergence, et ça c'est intéressant aussi, c'est comment des systèmes aussi qui ont autant de réponses et d'adaptabilité se fonctionnent uniquement par émergence et par échange entre individus. Et du coup c'est bien tout au long de la chaîne de valeur, là je parle des champignons, des arbres, mais il y a aussi la vie du sol, enfin les vers de terre, les cols en bol, les herbivores au-dessus, etc. Et donc tout ça collabore en permanence pour maintenir un système qui va être favorable à tout le monde. On pourra produire.
ben, intention commune et expérimentation. Alors pour illustrer ça, eh bien, on s'aperçoit que l'impact d'une action en durabilité sera d'autant plus forte si elle se place sur une filière d'entreprise plutôt que tout simplement sur une entreprise. Donc vous avez ici les résultats d'un bilan carbone qu'on a fait au groupe Lavoie. Le groupe Lavoie dépend du groupe Rossel, donc c'est Lavoie du Nord, c'est vraiment tous les journaux locaux du côté du nord de la France. Et on avait projeté des possibilités, un potentiel de 45% de réduction d'émissions, à condition qu'ils travaillent vraiment sur ce gros paquet-là, et ce gros paquet, c'est le papier. Parce que le papier à la Voie du Nord, il vient de Russie ou du fin fond de l'Espagne, il est fait dans des conditions qui ne sont pas optimales d'un point de vue durabilité, alors que s'ils ramenaient leurs fournisseurs près de chez eux, par exemple Stora Enso du côté de la Flandre, qui sont vraiment très très performants, qui émettent trois fois moins que les Russes, et c'est évidemment beaucoup plus proche, eh bien ça permettrait des réductions beaucoup plus importantes de 45%. Sinon, vous restez à la marge de nouveau. C'est de l'éco-efficience. Vous améliorez un système qui n'est pas durable, si vous voulez, si vous ne travaillez pas sur la filière. Donc la collaboration le long de la chaîne de valeur, elle est clé pour démultiplier l'impact. Voilà. Ça, c'est mon nom.
Gaëtan, un tout grand merci. Vraiment bravo. Merci. Voilà, maintenant, après ce premier exposé qui mêlait l'expérience pratique de Green Loop à des considérations sur les principes du vivant, ben on a le plaisir d'accueillir Nicolas, qu'on a retrouvé perdu dans Watermal, et qui va donc nous parler de lui, de sa vision philosophique, plutôt, par rapport à cette créativité inspirée du vivant. Et on espère, Nicolas, qu'après, peut-être avant le repas, tu nous feras un petit concert improvisé sur le grand piano qu'il y a de l'autre côté.
Oh là, là c'est un peu...
Oui, c'est un peu vache, là, comme ça. Oui, c'est... Sans préparation, mais voilà. Alors, comment ça,
alors,
tu...
moi
oui, parce qu'il n'y a pas de... Est-ce que tu as une présentation? Tu as une clé USB?
Non, mais je vais prendre mon portable.
Ah, tu as ton portable. Ok, ça va. Est-ce que comment tu veux parler debout ou assis?
Je vais passer une chaise ici, m'asseoir, me lever. Ça fonctionne pas.
En fait, on peut tourner la chaise et tu peux agir de là. Hein.
Ah oui, si tu veux.
Moi, je vais tourner la chaise, voilà. Je peux déjà brancher ça.
Voilà. Mais c'est bien d'être planqué sur une chaise.
Parce que. On va la mettre. On va laisser ça comme ça.
Voilà, parfait.
Oui, c'est pour l'enregistrement.
Ah, d'accord.
On va prendre un petit peu.
Je te mets où? Moi, je te pique ton fauteuil alors.
Ouais, exact.
Prends ce fauteuil. Pas grave, je vais prendre autre chose.
Est-ce que ça marche?
Windows, mais elle marche.
Ah, c'est un Mac que tu as là?
Non, c'est un Linux.
Peut-être qu'il faut éteindre le...
Open document. On va partager dessus. Voilà. Bien, donc, avance un peu le... Voilà, encore, voilà, c'est parfait. Parfait, oui.
Bon, ça n'a pas d'importance, je vais rentrer tout à l'heure dans le... Donc, alors, j'arrive de Grenoble. Alors, si vous connaissez un petit peu la France, Grenoble, c'est une ville... une ville très, très étonnante, magnifique, dans un site un peu exceptionnel, entouré de montagnes. Et vous avez des développements scientifiques très intéressants. Et puis, elle est entourée de trois massifs. Et si vous regardez, si vous imaginez trois massifs autour d'une grosse ville comme Grenoble, dont l'agglomération fait aujourd'hui 500 000 habitants, c'est-à-dire qu'en 50 ans, elle est passée à peu près de 200 000 à 500 000, si vous imaginez ce que ça représente. Donc les Grenoblois de souche sont perdus au milieu des autres des habitants. Si vous voyez les images des trois massifs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois accès sur Grenoble. Donc un par le nord-ouest du côté de Lyon, un plutôt qui vient de la Savoie, et puis un qui vient vers le sud, mais en passant par des montagnes et des cols. Si bien que vous imaginez ce que c'est que le matin, lorsque vous essayez d'accéder à une ville comme à la ville, donc c'est des bouchons interminables. Et pour faire 17 km à mon boulot, je mets en moyenne 1h15, 1h30 en voiture. Alors maintenant, j'utilise le vélo électrique et de temps en temps le bus. Et voilà. Alors c'est important de vous le signaler parce qu'en fait, depuis quelques temps, les patrons eux-mêmes, donc les entreprises commencent à se plaindre de cette situation. D'autant plus que la ville de Grenoble étant enfermée dans les montagnes, il y a une espèce de nuage de pollution permanent qui fait que, c'est, je dirais presque la pression du milieu qui enfin, de l'ambiance, de cet écosystème déstabilisé, si vous voulez, qui conduit à la demande des patrons eux-mêmes. Donc il y a eu des gros mouvements ces derniers temps, avec des grands titres dans les journaux. Les patrons en ont marre des bouchons, en ont marre des pertes de temps. Alors si on suit un petit peu la réflexion de Gaëtan, une fois la pression des contraintes, ça peut créer des émergences. Donc on peut souhaiter effectivement que tout ça produise des émergences. Bien. Bon, je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas de Roglaudre, je suis le beau-frère de Christophe de Rennes, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui le connaissent, qui travaille à Utopia, et puis que j'ai connu quand il était petit. Alors, j'ai l'impression que Christophe et Laurent m'ont emmené un peu dans un traquenard, parce que là, après, justement, cet exposé très concret, moi, je vais vous parler concept. Hein. Concept, idées, critiques, etc. Et puis en plus, il y a un deuxième traquenard, c'est que on avait regardé, donc c'est très intéressant de passer par Google Maps ou Mappy pour arriver ici. On a suivi Google Maps, on a vu que on a vu comment accéder ici à partir de la gare. Bien, la gare, c'est très bien, on avait des belles photos, la rue, etc. Malheureusement, c'était pas la gare
de Waterloo,
c'était une autre gare à laquelle je suis descendu. C'est la raison pour laquelle je me suis un peu égaré, jusqu'à ce qu'on me retrouve pantelant et hagard dans une boutique informatique où j'avais demandé où est-ce que j'aille pour venir ici. Voilà. Alors, je ne suis pas chef d'entreprise, je ne suis pas ingénieur. J'ai été scientifique quand même pendant des années, puisque j'ai travaillé dans des grosses entreprises en France. Notamment aérospatiale, et puis j'ai fait de la formation dans des grosses boîtes comme Schneider et puis EDF. Mais enfin, ça date d'il y a longtemps, puisque maintenant j'ai plutôt une réflexion de type philosophique et également théologique. Alors ça va vous surprendre. Alors, de temps en temps, je fais un petit truc là-dessus, mais alors vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour faire de la. Du prosélytisme, rien du tout, mais c'est juste de temps en temps qu'il y a des petites idées que je peux récupérer et qui me servent bien.
Et puis alors, je suis aussi artiste, égyptien, enfin musicien. Sauf que j'ai rien préparé pour ce soir, donc si vous voulez me faire jouer ce soir, il va falloir vraiment. Mais je le ferai, hein, je le ferai. Parce que si vous me mettez sur un piano, je vais taper dessus, mais alors je vais devoir mouiller. Hein. Donc attendez pas de moi, des choses extraordinaires. Voilà. Je vais pas redire des choses que vous savez, que l'écologie doit être pensée dans un cadre post-industriel, même si je n'aime pas cette idée de post qui est très à la mode, et j'aime mieux justement une vision intégrative des choses. Alors je vais aussi éviter d'exposer la situation inquiétante dans laquelle la machinerie économique et technique nous a entraînés. Il y a beaucoup d'exposés sur la question. Moi je suis très distant à l'égard des catastrophistes, donc, même si j'en ai vu un certain nombre. Je pense que c'est, si on veut penser en termes de soutenabilité, de durabilité, ben, il faut commencer par avoir envie de le faire, et si on a envie de travailler, ben, il faut commencer par avoir un esprit que je dis positif. Hein. Je ne dis pas optimiste, mais je dis positif, au sens où on essaye de s'appuyer sur des réalités concrètes. Alors je sais bien qu'on va transmettre à nos générations futures aujourd'hui des catastrophes durables. Hein, on a discuté avec un collègue. Il y a des catastrophes comme Bhopal qui sont des catastrophes très importantes, industrielles très importantes, mais qui ne sont pas durables. Et finalement, quelque part, 2-3 années après, c'est fini. Disons dizaines d'années après, on arrive à guérir ça. Mais la disparition de la mer d'Aral ou Fukushima ou Tchernobyl, c'est des choses qu'on va transmettre de génération en génération en génération. Donc c'est des catastrophes durables. Et c'est vraiment, je pense, une des caractéristiques de notre époque. Je voulais quand même juste le dire. Mais je ne veux pas faire ça. Donc on va entrer dans un autre. Ah oui, si je reste assis, excusez-moi, c'est parce que je suis. Ça marche ou pas? Bon, c'est pas le problème, je crois qu'il faut appuyer sur celui-là. Je vais faire d'abord une petite introduction méthodologique pour nous repérer. J'ai une petite phrase, je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions, vous la reverrez de temps en temps pour voir un petit peu. Voilà. Alors j'ai. Voilà, je pose des bases si vous voulez. D'une introduction méthodologique qui voudrait se contenter d'objectiver 4 types de systèmes possibles que l'on peut rencontrer dans nos activités, qu'elles soient techniques, organisationnelles, artistiques ou même intellectuelles. Bon, un schéma c'est toujours réducteur, mais on va essayer de se repérer à partir de là. Il s'agit d'un référentiel simple, qu'arbitrairement, donc je divise en 4 parties. On verra tout à l'heure que moi je suis très perplexe d'un point de vue philosophique vis-à-vis des schémas, que les schémas justement ont tendance à réduire dans l'espace des réalités qui sont vivantes, temporelles, autonomes, etc. Mais bon, il faut passer par là, c'est une médiation, on doit s'en contenter. Alors, je vous propose ces 4 modèles que j'appelle modèles de stabilité linéaire. Voilà. Quand on analyse un problème, on peut l'analyser sous l'angle temporel en voyant que. Donc, ce que j'appellerais une stabilité linéaire, c'est un système où l'effet est totalement contenu dans la cause, il est directement mesurable. Donc, en prenant l'analogie mathématique. Linéaire, si vous voulez. Et dans une dimension structurelle, le tout est la somme des parties. Si vous voulez, la méthodologie utilisée serait plutôt de type métrique. Alors pour moi, ce système n'a pas de créativité. Alors, vous allez peut-être choqué de ce que je dis là, mais pour moi, un process, une évolution technique ou formelle, qui ne suit qu'une séquence de causalité ou de construction, n'est pas un processus créatif. Ça, c'est mon côté théologien qui intervient, qui pense que pour qu'il y ait création, il faut véritablement une émergence, quelque chose qui sort un petit peu de réellement nouveau, de réellement sorti du néant, si vous voulez.
en tout cas qui n'est pas prévu dans les potentialités existantes. Donc pour qu'il y ait création, il faut au minimum une rencontre de séries indépendantes hein, ou d'événements indépendants, ou bien encore une fécondation, une conjugaison pour s'exprimer en termes de vivant. Alors, je voulais dire que ce système n'existe pas, en fait. C'est une pure projection abstraite. Dans la réalité, on va plutôt avoir, dans le domaine scientifique, économique, on va plutôt avoir des systèmes que j'ai appelés d'instabilité faible. Si vous voulez, légère déviation nous permet de ramener l'effet dans la cause, ramener... la partie dans le tout, etc. Voilà, donc ce deuxième modèle, donc, que j'appelle quasi-linéaire, permet de est un petit peu, si vous voulez, comment dire, j'ai mis en bas la créativité réduite à l'amélioration des process existants. C'est le modèle courant des systèmes techniques et scientifiques. Il y a peu d'influence de la temporalité, en fait. J'insiste là-dessus parce que je me rappelle quand j'étais prof de physique, que je disais toujours à mes étudiants, si vous ne faites pas de calcul d'incertitude, vous ne faites pas de la physique. Vous faites de l'imagination formelle, c'est tout. Parce qu'en fait, ce qui fait la réalité physique, c'est justement qu'un système s'inscrit dans un environnement avec un certain nombre de perturbations, de perturbations à différents ordres, hein, des perturbations quand vous faites une manip, perturbations de premier ordre qui sont liées au dispositif de mesure, qui sont liées à nos manières d'observer les choses, etc. Et puis après, vous pouvez avoir des perturbations de second ordre. Je disais souvent aux gens, oui, ben, le camion qui passe dans la rue, il va perturber également l'expérience que vous faites. Les variations de température vont également perturber le système que vous faites. Alors même si c'est epsilon, ça existe quand même et on ne peut pas les contourner. Et puis on peut imaginer des perturbations de troisième ordre, de cinquième ordre ou à l'infini. Un tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, ça perturbe aussi le système même si c'est imperceptible. L'explosion d'une supernova dans l'univers, ça perturbe aussi le système. Bon, mais tout ça dans une chaîne de cause à effet, c'est vite ramené à, je dirais, une causalité linéaire. Voilà. Troisième type de modèle. Ah non, ça j'ai déjà vu, ok. Turbulence chaotique. Là, vous connaissez ça, je pense. Voilà. Modèle turbulent, chaotique, c'est celui des situations de crise. Alors, je lis un petit peu ce que j'ai mis. Le côté temporel, dont les effets débordent la cause et ne sont pas mesurables. Voilà, donc j'ai mis une analogie mathématique en supposant que la série qui correspond aux perturbations d'ordre 2, 3, n, etc., crée des suites divergentes. Hein. Alors, évidemment, il ne faut pas le prendre au premier degré, hein, l'analogie. C'est une analogie mathématique. Hein. J'essaie de vous le montrer. Aspect structurel, donc les parties et les fluidités submergent les structures. Voilà. Par rapport à ce modèle, si vous voulez, donc j'ai appelé ça des situations de crise, avec deux possibilités. En fait, elles sont symptômes de deux types de possibilités. Soit un signe de mort, hein, c'est un système qui est en train de se décomposer, se détruire. Mais ça fait partie de la vie. Quand on parle de vie, on parle de mort, inévitablement. Tout à l'heure, on a parlé de... je ne sais plus quels sont les mots qu'a employé Gaëtan, je vais noter. Vous m'entendez bien ou pas, en fait? Assemblage des assemblages.
Oui.
Voilà. Voilà, signe de mort. Ou alors, éventuellement, signe d'une évolution discontinue qui peut-être mener, effectivement, par contrainte du milieu, par contrainte énergétique, à des émergences, qui peuvent être des émergences locales, des émergences globales. Donc quelque chose de réellement nouveau. Alors j'imagine comment on peut aborder ça pour le management. Ça c'est à vous de projeter dans ce que vous vivez de votre côté. Voilà.
Une tentative contraire.
Non, pas uniquement par contrainte. Par contrainte et créativité. Mais il ne faut pas avoir peur du mot contrainte. Je vais revenir tout à l'heure dans ma présentation au sens que justement, une vraie liberté, c'est finalement savoir gérer les contraintes et savoir les dominer. Alors, je suis un petit peu cancien sur les bords là-dessus. Dans mon introduction, j'ai fait un petit truc sur ce point. Donc voilà. Bon, je suis très bavard, excusez-moi. Donc, émergence possible, on est dans le domaine de la possibilité, il n'y a rien de nécessaire là-dedans, effectivement. Dans les systèmes humains, sociaux, non économiques, l'énergie nécessaire donc pour passer s'appelle la créativité. Là, il y a réellement, il faut du nouveau, c'est pratiquement nécessaire. Et moi, je dis qu'il faut des stratèges, il faut non seulement des stratèges, mais il faut aussi des artistes hein, dans le monde des organisations. Au sens large du terme, pour apprendre à naviguer un peu dans le flux et produire des émergences. Alors moi, je rêve un petit peu d'un point de vue politique, d'assemblée, en Belgique, je ne dis rien parce que je parie que vous avez quelques problèmes. Enfin, en France, on a d'autres problèmes aussi. D'assemblées nationales ou mondiales ou européennes qui sont composées, il faut des assemblées législatives, il faut des pouvoirs exécutifs, il faut des pouvoirs judiciaires, etc. Mais j'aimerais bien qu'un jour on invente des assemblées que j'appelle d'artistes, des assemblées artistiques et d'inventeurs qui seraient à côté là, et puis qui permettraient justement, dans la situation de crise, d'apporter un petit peu du concept, des idées, des inventions. Je me rappelle d'avoir assisté, c'est pas dans mon exposé, là, à un exposé un jour où il y a dans une entreprise qui travaillait à Annecy, j'ai à côté de moi les perturbateurs de l'entreprise, ceux qui passent leur temps à râler, qui sont jamais toujours de mauvaise humeur. Eh ben, on a fait une petite équipe qui, lors de réunions, on les fait toujours intervenir pour qu'ils aient leur mot à dire. Et ils sont tellement contents d'avoir intégré d'ailleurs l'équipe de management qu'ils sont là pour un petit peu apporter des idées nouvelles. J'ai trouvé ça très, très, très amusant et c'est intéressant. Alors, dernier modèle, alors là, effectivement, le dernier modèle, je le soumets aussi à la sagacité, à la critique de Gaëtan. Je l'ai centralisé sur le fait que le modèle vivant est capable de contrôler l'aléatoire et l'imprévisible. C'est un des aspects fondamentaux du monde du vivant, qui est l'intériorisation des perturbations de l'aléatoire par des systèmes rétroactifs, par des systèmes autonomes. Et la créativité y est permanente, en fait. C'est ça qui est important à voir. Pour qu'un système soit vivant, il faut qu'il soit créatif à la fois pour maintenir les métabolismes, les invariances, les reproductions, mais aussi pour permettre l'émergence donc, de structures nouvelles, soit par incrémentation successive, soit par pression en tout cas interne, ou par adaptation à de nouvelles conditions qui puissent apparaître. Voilà, la vie de l'ordre de la complexité, et j'ai beaucoup aimé le schéma que tu as montré, en montrant que ça va de bas en haut par, je ne sais plus quelle expression tu as utilisée, ça m'a noté également. Voilà. Bon, alors je finis là-dessus ma petite introduction.
Je comprends pas bien, le système centralisé ici. Vous pouvez l'éclairer.
Alors pour le propre du vivant, d'abord, c'est d'être une unité complexe. Donc, c'est pas la somme de ces parties. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup dans la philosophie, à savoir que si vous décomposez le vivant et que vous pensez que vous allez expliquer tout par la somme des parties, en fait, vous tuez la vie. C'est plus la vie que vous avez. Vous avez un système mort, complètement éclaté. Un système vivant est centralisé et unifié. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'organisation qui est pas forcément qui n'est pas représentable fortement par des concepts, mais ou par des mesures ou par
il y a plus que la matière.
Voilà, il y a alors plus que la matière. Oui, on peut dire qu'il y a plus que la simple matière. Mais la limite de la matière, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors là, également, je termine entre philosophes. Ce qui existe, c'est le vivant. Il existe, mais la matière, c'est un concept complètement abstrait. Et d'ailleurs, si vous cherchez la matière fondamentale, plus vous descendez vers l'infiniment petit, plus vous commencez à perdre, vous ne savez plus de quoi vous parlez. Aujourd'hui, maintenant, quand on arrive, si on prend les modèles subatomiques, etc., on a d'abord la physique quantique qui intervient là-dedans. Donc, la physique quantique, on ne sait pas ce qu'on observe, si c'est des particules, si c'est des monades au centre d'un champ
ben, je ne sais pas quoi, électromagnétique, nucléaire, ou, enfin, et puis on définit les particules par des interactions, on ne définit plus les particules en soi, on n'est plus dans une conception substantialiste comme pouvait l'être à l'époque de Dalton, ou même avant de Leibniz, ou je ne sais trop qui. Aujourd'hui, ben, une particule se définit par son interaction. Et c'est en fait la matière, quand on essaie de savoir ce que c'est que la matière, elle nous échappe complètement. Et on arrive à un concept complètement abstrait. Déjà, je serais la même chose de l'esprit, c'est également un concept complètement abstrait. Voilà. Bon, allez, voilà, ça c'était un petit départ, disons, méthodologique. Là, je voudrais faire un petit introduction critique, je ne vais pas être trop long, hein, pour ne pas trop vous embêter, par rapport au schéma de Johannesburg, que vous connaissez par cœur, bon, qui est complètement de traviole, mais sur mon ordinateur, il est bien, les cercles sont bien clairs. Hein. Le développement durable ou soutenable, moi j'aime mieux le mot soutenable, sustain, parce que quand on dit soutenable, on dit qu'on a quand même une dimension d'auto-entretien, que durable, ben, ça ne veut plus rien dire maintenant en France, je ne sais pas si en Belgique on parle, mais tout le monde parle de durable. Pour faire n'importe quoi et vendre n'importe quoi, on a besoin d'un ingénieur sérieux comme Gaëtan va nous montrer pour essayer de remettre la durabilité à sa vraie place, qui est du domaine effectivement du vivant, du biologique. Voilà, bon, alors ça vous le connaissez, j'insiste pas sur ce schéma. En revanche, je vais faire juste deux, trois petites critiques. Bon, ça aussi, vous connaissez ce schéma. Voilà, juste de citer le risque d'enfermer le développement durable dans l'économie. Hein. Donc ça c'est donc on va dire par exemple que l'environnemental et social ça fait partie de l'économie. Oui, je respecte le développement durable, mais je respecte pas les spécificités. Hein. Bon voilà, ça c'est un schéma réducteur. Je le fais exprès, je suis très court, mais
Gaëtan a évoqué cela aussi. Justement.
Ah bon, bah,
c'est avant que tu aies...
ah, juste avant que j'arrive.
Non,
il y a l'autre réduction, bien sûr, la réduction dans le social. Hein. Bon, voilà, l'économique et l'environnemental absorbés dans le social. Et puis la troisième vision, c'est enfermé dans l'environnemental. Je ne dis pas écologique. J'ai plus de respect pour le mot écologique que pour le mot environnemental. Enfin non, plus pour moi, l'écologie fait référence à l'écosystème et c'est quelque chose de plus vaste. Voilà. Et puis il y a un quatrième risque aussi, c'est le risque de figer. De figer ces trois systèmes parce que... encore une fois, là, si on voit les choses de manière vivante, eh ben, ça bouge. Donc, on peut imaginer que de temps en temps, ça se dilate, ça se réduit en respectant chacune des spécificités, les croisements, les rencontres des ensembles, si vous voulez. Mais ça bouge, il faut que ça bouge. Sinon, si on se fige dans les schémas, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Bien, bien, bien. Alors maintenant, je vais faire un petit... Excusez-moi, c'est aussi un défaut que j'ai. C'est un petit aparté plus, disons, éthique, hein, plus philosophique. Que j'appelle notre notion de liberté. On parle de quoi quand on parle de liberté. Voilà. Voilà, on dit que la liberté, surtout dans le cadre des courants du libéralisme tous azimuts, là, on parle de liberté, c'est-à-dire je fais ce que je veux, sans contrainte. Voilà. Mais en fait, il faudrait passer à un autre niveau qui est la liberté d'autonomie. L'autonomie, c'est justement je connais, je maîtrise mes contraintes. Et de cela, je suis capable d'en produire quelque chose. Et l'existence humaine, quelque part, elle consiste aussi à passer un peu de l'un à l'autre. La liberté d'indépendance est indispensable. C'est le cas de mes ados. Moi, j'ai un fils de 15 ans, il ne veut plus de contraintes, il veut envoyer tout promener, etc. C'est une étape indispensable pour sortir peut-être de ces contraintes familiales et de toutes les imprintings, comme on dit, qu'on a pu lui mettre dans sa tête. Bon, c'est bien, c'est important. Mais après, il faut aller au-delà, il faut donc rentrer... dans ce que j'appelle liberté d'autonomie, quelque chose de plus organique, plus biologique, sachant que quelque part les autonomies dans le monde du vivant, dans la nature, enfin les libertés qu'on peut éventuellement pressentir, si on parle de liberté, c'est du domaine de l'autonomie. Alors je vous ai mis Vladimir Horowitz là, à côté en bas. Pourquoi ? Parce que c'est une analogie que j'aime bien utiliser. Vous mettez un vous mettez un gosse de 3-4 ans devant un piano, il va taper n'importe comment, et vous allez dire, il fait ce qu'il veut du piano. Ok, bon, c'est très amusant, il fait ce qu'il veut. Je suis indépendant, papa et maman m'ont mis devant un piano, je fais absolument ce que je veux, et je suis libre de faire ce que je veux. Maintenant, je prends le numéro 8, Martin Gurich, n'importe quel grand pianiste, ils sont, quand j'écoute la radio, je suis capable maintenant à peu près de repérer quand c'est Horowitz qui joue, quand c'est Cortot qui joue, etc. Ils ont leur griffe personnelle, ils savent contrôler, ils connaissent toutes les contraintes qui existent d'un point de vue technique, enfin déjà organique, les doigts, il faut apprendre à discuter ses doigts, il faut faire des heures et des heures et des heures d'exercice pour obtenir une technique. Après, il faut connaître le monde musical, il faut connaître les œuvres qu'on étudie, il faut connaître le solfège, il faut connaître la mécanique du piano, l'univers des sons, il faut connaître un nombre de choses absolument hallucinantes. Et je deviens un virtuose, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de maîtriser totalement ses contraintes et de s'exprimer dans sa spécificité, dans son identité, dans sa créativité qui est propre. Alors, évidemment, il faut du travail, il faut de l'énergie. Donc, il faut un système qui sans cesse, je fais une boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'indépendance, mais qui sont après acquis, intériorisés, etc. Vous voyez ce que. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît très important quand on pense en termes de liberté. Moi, je fais ce que je veux, et puis le libéralisme économique, c'est faire ce qu'on veut. Ben non, c'est aussi d'intérioriser ses contraintes, de se créer ses propres règles pour pouvoir effectivement être créatif. S'inscrire dans un écosystème humain, pour donner l'exemple du pianiste, dans un écosystème artistique, par exemple. Voilà. Alors, j'avais un long développement là-dessus, mais je ne sais pas combien de temps vous me donnez.
Jusque 8 heures maximum.
Et il est quelle heure, là?
Il est 7h30.
Ah, bon, d'accord. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. Peut être considéré comme une autorégulation dans la mesure effectivement où le travail, parce que le travail peut être perçu comme quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. Mais si on arrive à l'intérioriser justement par un travail qui nous rend à la fois de plus en plus nous-mêmes, on peut imaginer de manière plus large, un travail dans une équipe. Moi, j'ai de la chance, je travaille dans une équipe où on se connaît de mieux en mieux. En se connaissant de mieux en mieux, on sait rire ensemble, on sait s'engueuler ensemble, on sait. Donc, toutes ces choses qui peuvent perturber quelqu'un qui est tout seul ou qui pense que ça, ce sont des choses qui lui font du mal dans ce cas de travail. Quand il y a une vie d'équipe où on le travaille, on se connaît, on apprend à se structurer entre nous, ça devient quelque chose de plus en plus créatif. Puis notre équipe, là où je travaille, est toute jeune, on est tous là depuis moins de 2 ans. On a plein de vie. Voilà. Pour donner un exemple. Mais ce qui est important, c'est justement cet aspect de. J'insiste sur l'autonomie, c'est qu'on puisse. C'est que c'est une liberté inscrite dans un système, dans un ensemble, et qui pose donc des polarités, je dirais un peu. Monadiques au sens de l'épice, si vous voulez. Voilà. J'avais pas mal de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas insister. Hein, parce que c'est encore...
On peut en débattre après.
On pourra en débattre après, si vous voulez. Voilà. Bien. Voilà, bon, j'ai à peu près fini mon introduction, que j'ai appelée critique. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais passer. Alors là, on va faire un peu de philosophie... plus fondamentale, et je vous propose de réfléchir sur ce que justement on doit dépasser un petit peu dans la problématique d'aujourd'hui, en espérant que je puisse en dire le plus possible. Voilà, ça retourne derrière, dans mon papier c'est un peu la pagaille, mais on peut les commenter. Alors voilà, bon, ça c'est déjà lui. Ça c'est lui. Voilà. Bon, bah tant pis, je vais commenter directement. Je sais où ils sont mes papiers. Je suis un peu pagaille, ne vous inquiétez pas. Mais je réorganise. Alors, est-ce que j'appelle les présupposés de l'Occident moderne? avec, à partir de trois choses, que j'appelle la disjonction fondamentale, qui conduit au dualisme. L'homme défini à partir de son existence comme sujet actif et passe donc bien sûr un univers et un environnement considéré comme passif. Voilà. Alors, cela, ça vient beaucoup de la réflexion d'Edgar Morin, qui a écrit, donc, je vous rappelle, 6 tomes, ça s'appelle Méthode, plus tout un tas de bouquins qui tournent autour, où de temps en temps il se répète pas mal, mais où il a souvent des très bonnes idées. Et il a écrit notamment un tome qui s'appelle La vie de la vie, où c'est bourré d'idées, d'inventivité qu'il faut absolument lire, relire. D'ailleurs, il le dit lui-même au début, il faut lire et relire et relire. J'ai confronté ma réflexion à tout un tas de scientifiques, de penseurs, d'ingénieurs, pour pouvoir le bâtir. Bon, alors lui, il pose la question de ce qu'il appelle il essaie de réfléchir sur l'Occident, et alors, il est très critique dans son premier tome, notamment sur ce qu'il appelle la disjonction fondamentale, c'est-à-dire de poser l'homme coupé de l'univers naturel, de l'homme surnaturel, l'homme au-dessus de la nature, comme être pensant, comme sujet, face à un monde qui est un monde d'objets, etc. Cette disjonction fondamentale est la source d'un nombre hallucinant de dualisme qui finalement sont finalement stérilisants pour la pensée, d'autant plus que la réalité, qu'elle soit humaine, existentielle, ou qu'elle soit économique, industrielle, sociale, etc., est complètement au milieu, entre les deux. Non, j'en ai mis divers dualismes, dualisme sujet-objet. Hein. On oppose ce qui est objectif à ce qui est subjectif, à ce qui est sujet actif et objet passif, ou représenté, etc. On oppose idéal réel. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait aussi de virtuel et de réel. Là aussi, c'est une dualité que je n'ai pas mise par rapport au développement de l'informatique. Et c'est dommage, j'aurais dû y penser avant, hein, mais il y a un monde gigantesque à creuser dans cette direction-là. Raison-sensibilité. Ça c'est important. Moi, je suis toujours très amusé par le fait que la science moderne est née, a été faite par des hommes. Par des hommes au général, en méprisant profondément le monde féminin. D'ailleurs, il y avait une phrase très étrange sur le fronton de l'Académie des sciences de Londres au XVIIe siècle, où on disait que, c'était ailleurs, oui, l'homme va reprendre à la femme le pouvoir qu'elle avait sur la vie. Intéressant.
C'était dit comme ça.
C'était pas exactement ça, il faut que je retrouve la source exacte, mais. Non, ça c'était un des aspects. Au fronton c'est marqué, il faut la. Je vais retrouver, mais c'était en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas sur le fronton. Le fronton, je l'ai retrouvé, je ne l'ai plus dans la tête, je ne l'ai pas écrit là. Mais c'était une phrase qui avait été écrite, donc l'homme va. Ça me revient. C'était dans le cadre de l'extermination des sorcières qui a eu lieu au début du XVIIe siècle. Vous savez que les grands massacres des sorcières n'ont pas eu lieu au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on s'imagine, mais au XVIIe siècle. Les grands massacres ont été organisés au niveau de toute l'Europe, parce que effectivement, dans les villages, dans les communautés locales, il y avait ces femmes, en fait, c'était des centres de communication. La sorcière, qu'on a diabolisée, bien sûr, déjà au XVIe et surtout au XVIIe, c'était d'abord des centres de communication qui avaient un certain pouvoir sur la vie, sur la nature, qui connaissaient un certain nombre de choses. Et il y a une conjonction très étrange entre l'arrivée d'un scientisme mécaniste et puis le côté des religions imposées pour organiser des massacres de sorcières à travers toute l'Europe. Et moi, je trouve ça très intéressant, cet aspect-là. Bon, je passe. Autre dualité d'espace et de temps. Alors, on doit ça beaucoup à Newton. On a même réussi à spatialiser le temps. Justement, en faisant des schémas, en faisant des beaux schémas avec le temps d'un côté et puis, je ne sais pas, des structurations d'espace ou des phénomènes dans l'autre. C'est-à-dire que le temps, finalement, perd ce qui correspond à sa créativité. Opposition abstrait-concret. D'autres oppositions, elle a plus de type anthropologique. Hein, opposition esprit-matière. Opposition âme-corps. Opposition essence-existence. Opposition culture-nature. Moi je suis désolé, mais le monde scientifique fait partie de la culture et j'y tiens. Et la nature, finalement, est quelque chose finalement, d'extrêmement évolutif aussi, puisque, quelque part, ce qui est, peut représenter culture à une génération, par exemple, sur le plan d'évolution historique humaine, et devient presque naturel à la génération d'après. Bon, moi, je donne l'exemple très concret de mes... Alors, ce n'est pas vraiment dans l'évolution culture-nature, mais dans le sens de ce qui peut paraître abstrait à une génération et qui devient très concret à la génération suivante. Moi, mes enfants, ils sont nés dans le bain informatique, et pour eux, c'est déjà concret, c'est déjà naturel, ça va de soi. Alors que moi, ma génération, j'ai dû l'acquérir par un travail presque culturel, par un travail d'imagination, de compréhension conceptuelle, d'analogie avec d'autres domaines. J'ai acheté mon premier ordinateur en 1986, hein, c'est un Amstrad, qu'après j'ai dû découvrir l'environnement GEM, puis l'environnement Windows, et puis après l'arrivée du web, etc. Les enfants, ils naissent là-dedans, c'est naturel, très vite, c'est acquis, et puis c'est... Donc l'opposition de la culture-nature, elle est discutable, etc. Art-science, hein, moi j'aime bien... C'était Pierre Boulez, hein, qui est un scientifique, artiste, donc les choses ne se posent pas. Et puis donc, les systèmes habituels, liberté qu'on oppose à déterminisme, nécessité qu'on oppose à hasard, finalité, absurdité. Alors justement, le vivant, il absorbe tout ça. Les présupposés de l'Occident moderne, l'univers est un objet passif. Un grand oublié, le vivant, pour comprendre la vie, on l'a pu. On l'étale, si vous voulez. Je fais ici le fameux dessin de médecin, de la dissection. On pense qu'on va comprendre le vivant en le tuant. C'est quand même étrange. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Voilà, et puis qui fonctionne encore. Et c'est donc, je dis, c'est le voilà. En même temps, je vous proposais une réflexion qui va peut-être vous surprendre, mais j'y tiens. Oui, alors, ça fait partie aussi des choses que vous pouvez retrouver dans ma réflexion dans la revue Utopia. J'avais écrit un article... c'est pour ça que Laurent m'a harpagué là, pour venir ici, qui proposait une réflexion, mais je n'aurai pas le temps de la mener, mais vous la relirez si vous voulez, dans la revue. Vous pouvez même la télécharger sur le site d'Etopia, sur ce que j'appelais une quelle philosophie de la nature pour l'écologie et le développement durable. Voilà. Je n'aurai pas le temps de tout dire aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, mais je vais faire de mon prochaine étape, fondement. Allez, d'abord, on va... J'espère que tout marchera bien. J'ai un ordinateur qui n'est pas très, très, très puissant. Voilà. Alors, voilà. Je suis désolé, mais je suis tombé de la philosophie, donc fondement existentiel. Voilà. Non, on n'est pas du tout dans la technique, je suis désolé. Il faut dire que je l'ai distingué en deux parties, l'homme comme corps et l'homme dans son existence que j'appelais écosomatique. C'est un mot que j'ai inventé, mais effectivement, s'il existe par ailleurs, plus que moi, je serais très content de le greffer sur d'autres réflexions. Voilà. Donc, l'homme comme corps. Bon, vous reconnaissez un personnage belge très connu. Ça. Voilà. Alors d'abord le corps. Le corps, c'est notre premier lieu d'existence écologique. Notre premier lieu d'habitation. Et il est vécu de manière existentielle, dans ses capacités, bien sûr, aussi dans ses manques, dans ses finitudes. Et il synthétise quelque part presque toutes les dualités substantielles que je vous ai montrées, les dualismes que je vous ai montrés. Qui sont finalement stériles parce qu'elles sont abstraites et que j'ai dénoncé tout à l'heure. Alors je voudrais m'arrêter sur un point, donc la manière dont on traite le corps, je pense qu'il est analogique à la manière dont l'humanité traite son écosystème. Existentiellement parlant, nous sommes un corps, nous n'avons pas un corps, et je pense que c'est très important. ça c'est une des grandes illusions de la modernité, d'avoir séparé l'âme et le corps et d'avoir pensé à partir du sujet pensant et parlant du corps comme quelque chose que nous avons. Ah non, nous sommes un corps, d'un point de vue existentiel. Après, si on passe à un niveau analytique, évidemment, on va faire l'objectiver un petit peu, donc on peut pas se parler, mais d'un point de vue proprement existentiel. Nous sommes un corps, nous n'avons pas un corps. Voilà. Et de même que l'écosphère, que la biosphère, la noosphère humaine sont un écosystème et non pas une machinerie artificielle étrangère plongée dans une nature extérieure. Voilà. Donc j'insiste, un point de vue existentiel et pas d'un point de vue rationnel ici. Alors qu'ensuite, nous ayons besoin d'objectiver le corps pour comprendre son métabolisme, ses échanges avec le milieu, son fonctionnement, ses organes, etc. C'est une seconde étape. Alors justement, je reviens sur la manière dont certains faisceaux scientifiques et techniques traitent le corps humain. Je voudrais dire une chose, j'ai été gravement malade pendant plusieurs années. J'ai été hospitalisé pendant plus d'un an. Après, j'ai subi après d'autres périodes d'hospitalisation. Je suis passé par tous les rouages de la convalescence, de la rééducation, etc. Donc je parle d'un milieu que je connais, d'autant plus que j'accompagne aujourd'hui des médecins. Voilà, alors d'abord, donc je vais dire un mot sur la médecine. La médecine et les sciences anatomiques par rapport aux sciences anatomiques et biologiques. D'abord un constat. Vous le savez, depuis 3 siècles, la médecine, du point de vue du diagnostic, du chirurgical, de l'hygiène, des thérapies, a réalisé d'immenses progrès. Je ne vous apprends rien. Allongement de la vie, chute de la mortalité infantile, fin des grandes épidémies, même le sida, on finira par le recouvrir, c'est très bien, accompagnement thérapeutique, on fait de plus en plus, etc. Mais cette médecine fonctionne dans le cadre linéaire et quasi-linéaire, vous savez, que je vous ai présenté dans mes 2 schémas initiaux. Comme elle est partie de l'idée qu'il faut tuer la vie pour la comprendre, non-dissection, découverte des organes, de leurs fonctions, des flux internes, des interactions énergétiques, et donc de représentation purement spatiale, étalée, si vous voulez, comme on étale un poisson sur des étales de poissonnier, hein. Représentation spatiale et mécanique, on ne saisit pas le vivant in live, en direct, si vous voulez, tel qu'il se vit lui-même. Aujourd'hui, heureusement, on a d'autres techniques qui permettent de mieux voir, mais... Or, la médecine commence à échouer dès lors qu'elle s'écologise, hein, en restant marquée donc, par ces 4 initiaux. Alors, je vais me dire, la médecine, elle échoue, quoi. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que vous me racontez? Ben oui, mais à partir d'un certain seuil, oui. Ben, aujourd'hui, il commence à se multiplier des maladies que j'appellerais des pathologies de second ordre. Certaines peuvent effectivement se stabiliser, mais d'autres vont certainement s'amplifier. Je parle de l'affection psychosomatique, qu'elle soit très fortement somatique et peu psychique, ou très fortement psychique et peu somatique. Des pathologies, je dirais, de civilisation à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle familiale, sociale, etc. Alors, les politiques de santé vont devenir de plus en plus envahissantes, ingouvernables, chaotiques, incapables d'intégrer ces effets de second, de troisième, de quatrième ordre. Elles se technicisent de plus en plus et vont devenir de plus en plus chères. Leur coût économique est de moins en moins maîtrisable et on voit, je ne sais pas en Belgique comment ça se passe, mais en France, la difficulté de réformer ce monde-là. On a oublié que le corps était un vivant et non une machine. Il était mortel, simplement, fini. Donc là. Ah, c'est passé un petit problème.
C'est la prise de courant. T'as mis une prise, Yann?
Non, mais ça marche.
T'as plus de batterie?
Non, la batterie, hein. Bon, bah écoutez, on va redémarrer, hein. Ah, bah si, ça revient. Donc, ouais. Ah. Ça revient, c'est le mystère de Windows, hein.
Ah non, il s'est mis en veille, ouais.
Voilà. Ouais, c'est pas un mystère, Windows.
C'est pas un mystère.
Oui, c'est pas un mystère. J'ai été fouillé dans le registre de Windows. Si j'ai rêvé à comprendre grand chose, et ben, chapeau. Bon, alors là, vous voyez, même là.
Ah,
bon,
okay.
Ben, ça fait rien, parce que j'ai développé des choses. Alors, on a oublié que le corps était vivant et non pas une machine. Donc, mortel, fini. Et pour moi, la finitude, je vous ai dit, c'est un lieu
de manifestations de contraintes qui peuvent produire des émergences, et qui sont fondamentales. Si tous les êtres étaient complètement indépendants, complètement autonomes, second principe de la thermodynamique, le système se dégraderait. C'est quand même quelque chose de très important. Et même au niveau humain, si vous voulez, c'est un lieu d'exercice de la liberté, dans un jeu de responsabilité et de solidarité. Voilà. Donc on a oublié que le corps vivant lui-même appartient à un écosystème, à une écosphère, au sens large, qu'il est lui-même écosystème, et qu'il est aussi interface existentielle. Alors j'aurais peut-être d'autres exemples que la médecine, moi je pense par exemple au monde de l'enseignement, le monde du transport, même du fonctionnement même d'une unité de production, etc. Mais ici, si vous voulez, ce que j'ai voulu, c'est mettre en évidence l'importance de ces dimensions de corps. Alors, j'ai essayé de je l'ai mis en haut, l'homme n'est pas d'abord un sujet, une âme, il est d'abord corps. Ce qui signifie une unité organique, un lieu d'émotion. Moi, j'ai discuté avec un psychanalyste qui dit, le côté émotionnel, existentiel du corps, c'est de se vivre en tant que jouissance, en tant que souffrance, et de temps en temps, dans certaines tranquillités, certaines paix. Et puis alors, le corps est une mémoire de la vie et de l'univers, ça c'est très important. Alors j'ai essayé de dégager six caractéristiques en lien avec cette expérience existentielle du corps. Alors j'ai l'expérience de l'intérieur et de l'extérieur, je vais y revenir. Je me suis beaucoup inspiré par la question de Merleau-Ponty sur ce sujet. L'interface énergétique, alors ça c'est mon côté scientifique, savoir que l'acquisition d'informations se paye toujours, je n'apprends rien d'un échange énergétique, mais ça va conduire à certaines interrogations sur le plan de l'organisation, de la manière dont on voit un certain nombre de choses. Je vais y revenir après. Et puis, l'homme est également centre de perspective et centre de construction. Je vais développer chacun de ces petits points. Mais il est aussi, le corps est aussi, vit aussi une expérience temporelle, finie. J'attache beaucoup d'importance à la temporalité. Une expérience située, donc, d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, ontologique, etc. Donc on vit dans une expérience de finitude. Alors je développe chacun de ces aspects. Différence intérieure extérieure. Le corps a une expérience intérieure et une expérience extérieure. Vous connaissez tous la différence, on la vit de manière existentielle. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de ce consultant qui aux États-Unis s'amuse à demander à tout le monde d'avaler votre salive. Vous avalez tous votre salive, pas de problème, vous faites bien. Maintenant, on vous demande de cracher dans un verre, puis maintenant d'avaler votre salive. Il n'y a pas beaucoup qui le feront. Donc, brusquement, le passage de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a quelque chose qui est franchi, et c'est une conscience qui est première, qui est fondamentale. Voilà, ce qui nous permet de distinguer, effectivement, en tant qu'expérience existentielle du corps, de ce qui appartient à ce qui nous est propre, le domaine de la propriété, et ce qui est commun à tous, à tous les niveaux de description de la vie. Voilà. Et les deux sont en interaction. Est-ce que j'ai fait des développements là-dessus, sur cette temporalité? Est-ce que j'aurai le temps? Non, ça va se tomber.
Je n'aurai plus le temps.
Voilà. Ensuite, oui, bon, je continue. Interface énergétique, bon là je ne vous apprends rien, je vais aller très très vite. Le corps, il acquiert des informations de tout ordre, des informations de type physique, biologique, après intellectuel, social, etc. Et puis, qui se paye toujours d'une dépense énergétique. Ah oui, là je voudrais dire un petit mot qui est important par rapport à cela. On a tendance à penser qu'un intellectuel, ça consomme moins d'énergie que quelqu'un qui fait de la production dans une entreprise. Bon, c'est archi faux, bien sûr. Je pense que vous avez dû le voir. Non ?
Bah, parce que pour produire un intellectuel, eh ben, il faut une infrastructure économique, scientifique, technique, culturelle, etc., qui a permis ça, de le produire, d'en faire un être vivant. On n'est pas, l'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui pense de manière instantanée. Il a une immense comment dire, structure, genèse de structures qui ont permis qu'il apparaisse, qu'il puisse être produit. Dans une culture qui est peu développée, qui consomme peu, on produira moins d'intellectuels que dans des structures qui sont très, très développées. Donc, il a fallu des gens qui le forment, il a fallu des réseaux d'organisations universitaires, des réseaux de transport, des dépenses, il y en a partout. Donc, c'est une illusion de penser qu'un intellectuel ne produit pas d'énergie, alors que si on le pense de manière globale, de manière temporelle, et, une structure qui se forme dans le temps, ben on verra qu'il en fait, globalement sur sa vie, consomme autant que des gens qu'on pourrait dire qui font de la production ou du manuel. Je vous choque pas en disant ça ?
Non, c'est intéressant.
Voilà. Donc l'acquisition d'informations se paye d'une dépense énergétique, quel que soit le niveau où ça se passe. Et elles ne sont pas forcément là où on les imagine.
Donc l'information matérielle.
L'acquisition d'informations, bon, l'information, c'est au premier degré, donc tu dirais l'information, c'est le passage d'un système indifférencié à une différence. C'est-à-dire qu'on passe du brouillard au 1-0.
Ce que je veux dire, c'est que si elle est une dépense d'énergie, c'est qu'elle est considérée comme de matière.
Qu'elle est considérée comme énergétique, je ne dirais pas matérielle, parce que moi, le mot matériel, c'est un mot très abstrait. Elle est énergétique, elle consomme de l'énergie, effectivement. Bon, elle est matérielle au sens courant du terme, si on veut.
Oui.
Voilà. Enfin, disons que c'est quelque chose qui est à la frontière de ce qui est formel. L'information est quelque chose. Non, c'est dans l'interface. Moi, je vais creuser un petit peu ce que développe Gaëtan, parce que dans l'intégrer à l'intérieur, c'est le monde d'une vision vivante et, des choses. C'est du domaine, l'information, c'est le domaine du vivant. Et le vivant, c'est quelque chose de concret. Et que la matière, pour moi, est quelque chose d'abstrait. Vous voyez ? C'est parce que j'essaie de faire passer. Oui. C'est pas évident parce qu'on pense. Matière, on dit c'est ça. Mais je vous dis, dès qu'on décompose cela, on arrive à un grand brouillard, on n'arrivera pas. Bon, alors, c'est matériel au sens d'un matériau, je ne sais pas si on peut le penser de cette manière-là. Mais je n'oppose pas spirituel et matériel. C'est tout ça se situe dans une vision organique des choses. Il faut le penser de cette manière-là. Il faut apprendre à le penser de cette manière-là. Si on veut dépasser ces vieilles dualités qui sont peut-être pratiques de manière méthodologique, mais sûrement pas de manière autologique.
Ce que je veux dire, c'est quand vous faites un discours comme celui-ci,
oui.
Vous transférez de l'information, vous transférez de l'énergie.
Il y a un échange d'énergie. L'acquisition d'informations crée un échange d'énergie. Alors, voilà. Alors, on peut, de manière immédiate, scientifique, si on essaie de faire une modélisation locale, bon, on ne le verra pas. Il faut penser de manière globale. Donc il y a toutes les façons dans l'acquisition d'informations, il y a toujours une dépense énergétique. Un être vivant, conscient, etc. ne peut se développer que qu'en milieu ouvert, avec donc un échange d'énergie extérieur. Si le système est fermé et n'échange pas d'énergie, et ben, il se décroche. C'est le second principe de la thermodynamique, vous ne pouvez pas y échapper. Delta S supérieur à 0. Voilà. Donc, il faut voir les systèmes vivants, comment ils fonctionnent, comment ils font pour acquérir de l'information, pour se développer. Bon, je n'ai pas assez creusé la question pour tout ça.
Il va falloir synthétiser pour arriver au bout de ta présentation.
Bon, là, écoutez, je vais aller très vite. Hein.
Ouais.
Donc, centre de construction. Alors, historiquement, le corps, je parle du corps humain, qui développe des outils, donc ce que j'appelle une mémoire technique industrielle, maîtrise de l'énergie, bien sûr, et dans l'histoire, finalement, l'histoire de l'hominisation et de l'humanisation, c'est deux choses différentes, on pourra en reparler, c'est de produire des outils, d'ailleurs, qui prolongent quelque part le corps humain. D'ailleurs, je trouvais ça chez Kant, ça c'est marrant, c'est-à-dire que la différence entre la main humaine et la griffe d'un chien, c'est que la griffe du chien, elle est déjà fonctionnelle et spécialisée. Donc la main humaine a la capacité de s'adapter à des tas de choses. Je peux jouer du piano, je peux dévisser quelque chose, je peux conduire ma voiture. Elle a une potentialité universelle. Donc qu'est-ce qui fait que les êtres supérieurs, les primates, pour arriver jusqu'à l'homme, ont développé des outils qui, eux-mêmes, peuvent fabriquer eux-mêmes leurs propres outils, ce qui est quand même très intéressant. Pour dire la même chose, d'un point de vue intellectuel, aujourd'hui, pour moi, le monde des ordinateurs, de l'informatique, etc., prolonge comme un outil, appelé artificiel si vous voulez, les capacités de l'homme. Voilà, bon, non, je vais très vite là-dessus. Et sans de perspective, alors là, c'est un médada. Hein. L'homme est toujours centre de perspective, hein. Le corps humain est toujours centre de perspective dans sa représentation du monde, dans son activité intellectuelle, dans son activité psychique, sensible. J'insiste pas, je passe à la suite. Voilà. Et puis les dimensions de finitude, quand même, là, je suis toujours le corps d'un point de vue existentiel. Voilà, notre finitude temporelle et les contingences de situation nous font appel à ce qu'on appelle la conscience de soi, pensée à Heidegger, conduit soit une angoisse existentielle ou alors l'étonnement d'être. Vous avez deux points de vue, deux choses qui se renvoient l'un à l'autre, interrogation sur le sens. Alors, cette dimension finie, contrainte de l'expérience humaine dans sa temporalité, peut conduire à un repli sur soi, hein. Ou alors une ouverture, vers autrui, une ouverture vers le social. C'est la remise finalement de notre finitude dans un système plus vaste qui nous permet de dépasser cette dimension-là. Je pense à propos de cette angoisse existentielle. Je ne vais pas développer ça. Voilà. Tu as quelle heure là ?
Il est 8h passées, donc...
Écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est s'arrêter là, imaginer qu'on peut prolonger. J'ai effectivement toute une réflexion.
Ça, c'est de la créativité. Ouais.
Alors, prolonger comment ? Alors, ce que je développe ensuite, c'est repris en grande partie dans l'article d'Utopia, notamment sur... je me suis beaucoup... c'était pour moi une révélation, c'est la pensée du philosophe anglo-saxon Whitehead, qui nous oblige à penser non plus en termes spatial et de représentation de spatial et relationnel dans l'espace, mais en penser en termes de temporalité, en fait, et de process, d'événementiel, ce qu'il appelle des entités actuelles. Et vous verrez ça dans l'article d'Etopia. Cette dimension-là que je n'ai pas développée. Enfin, ça ne fait rien, on pourra en discuter. Je vous laisse le schéma comme ça là-dessus. Parce que le corps, il n'est pas seulement à partir d'un certain moment, il est aussi en communication à divers niveaux avec l'ordre social, l'écosystème et l'autre en tant que personne. Je vous ai mis juste ça très rapidement. Et le propre du corps humain, c'est d'avoir un langage qui se différencie, se multiplie pour créer ce qu'on appelle une noosphère. Bon, je vais rester là-dessus et on va aller manger parce que j'ai faim aussi.
Oui, mais peut-être juste, tu conclus peut-être ta présentation, après on pourra en discuter, sur comment, à partir de tout cela, tu résumerais en quoi la nature peut nous inspirer et nous rendre plus créatifs.
Alors, je ne ferai pas de distinction trop vite entre la nature
et notre façon, on l'a compris. Oui.
Ce qui me semble important, et alors ça c'est un travail que je n'ai pas encore fait, mais que je voudrais faire, c'est d'apprendre à se penser comme vivant, non plus se penser en termes de relation objet-sujet. Cette relation objet-sujet, c'est la première chose qu'on doit recouvrir d'un concept plus vaste, qui est l'expérience du vivant dans son côté évolutif, émergence, contrainte, etc. Et là, je suis très Whiteheadien parce que Whitehead, justement, ne définit pas les réalités du monde comme des objets matériels dans l'espace, mais comme des événements qui se croisent, qui se tissent entre eux. Et en fait, nous sommes tous, de cette manière, des événements. Alors moi, après, il développe cela dans un concept plus large qu'il appelle le process, pas tellement au sens industriel, mais un process universel vivant, organique, comme il le dit. Et à l'intérieur de cette vision-là, nous sommes un peu, enfin, toutes les réalités, qu'elles soient naturelles les plus infimes, depuis les systèmes atomiques, subatomiques, jusqu'au système organisé, jusqu'à l'organisation elle-même de la noosphère, de la biosphère humaine, sont perçues dans leur dans leur dimension organique, vivante, etc. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que, alors moi, c'est un petit côté théologien qui aime bien ça, et très un peu hegelien. J'ai trouvé ça dans la mystique juive. Dans la mystique juive, où j'ai découvert que il disait pas que c'était l'homme qui faisait l'expérience de Dieu, mais c'est Dieu qui fait l'expérience de l'homme et qui prend conscience de lui-même à travers la multiplicité des expériences humaines. Et Whitehead, il reprend ça, mais en disant, d'une certaine manière, c'est le vivant, quoi. C'est le vivant qui est l'expérience de quelque chose qui est beaucoup plus important, donc un peu de retour sur la conscience de soi. Il y a un côté Hegel aussi. Alors, j'adore Hegel, c'est pour ça que j'aime beaucoup, hein, qui montre comment l'esprit se réalise par l'expérience de ces moments et par des expériences de moments, de dialectique, de contraires de lui-même. Quoi. C'est l'expérience de lui-même en passant par ses contraires et par un certain nombre d'étapes. Alors ça, c'est effectivement tout un champ que j'ai l'intention de creuser pour essayer de comprendre effectivement comment, pour se comprendre en tant que vivant. Je suis très marqué par la pensée théière de Chardin, notamment, qui centre toute sa pensée sur la vie. Il parle de prévie, de vie et de survie, mais pas de survie au sens qu'on imagine, mais la vie, si vous voulez, est son concept récapitulateur. Mm-hmm. Penser en termes de vivant, c'est autre chose que de penser en termes justement de matière et de représentation qui sont finalement déjà des abstractions, qui sont déjà des constructions mentales. Donc revenir à quelque chose de plus essentiel. Voilà, j'arrête là-dessus. J'en aurai des.
Merci beaucoup.
Voilà, je suis désolé, je ne suis pas tellement. Je ne suis pas tellement ingénieur de ce point de vue-là, je vais expliquer plutôt quelque chose plus du domaine de la cogitation. Voilà.
En tout cas, tu nous as donné des intuitions et puis on va essayer d'aller plus loin tout à l'heure.
Voilà,
merci beaucoup. Merci. Bonjour.